Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Florian.
Salut.
Comment ça va?
Ça va bien, un peu fatigué là, j'essaye de récupérer de Munich.
Ouais.
Musculairement, ça commence à aller mieux, mais je sens que l'énergie, elle est encore un peu à plat, donc on y va cool.
Ouais. En plus, là, vous avez fait carton plein, du coup, à Munich. C'était des bonnes sensations, j'ai cru comprendre, pour tout le monde, pour toute l'équipe en plus. Et il y a des fois, tu sais, quand tu gagnes, quand tu fais une super perf, t'as un peu l'adrénaline de la joie qui redescend un peu après et t'as le contre-coup. Je sais pas si c'est un peu ça que tu ressens là, mais...
Ouais, c'est vrai que c'était un week-end de fou pour tout le groupe et quand ça se passe bien pour tout le monde, en plus c'est encore mieux parce que tout le monde est dans la même ambiance. Moi, généralement, quand je fais une bonne course comme ça, que je suis vraiment content de ma course, ça me tient plus longtemps que quelques jours. Alors c'est clair qu'au début, les 2-3 premiers jours, t'es là à regarder un peu les réseaux et tout, t'es vraiment content. Mais après, tu restes dans un bon mood. Jusqu'à la prochaine course, on va dire, et après ça dépend de comment se passe la prochaine course, donc pour le moment ça va bien, je suis content.
Ok, trop cool. Et c'est une grosse saison là cette année en termes de quantité de travail et de quantité de courses?
Je pense que c'est une saison classique, on va dire. J'ai toujours entre 12 et 18 courses, quoi.
Ouais.
Là on en a fait à peu près la moitié de la saison, je dirais. Elle a commencé un peu plus tard que d'habitude, mais elle va finir plus tard que d'habitude. Ça va être un petit peu différent à gérer. On va finir fin novembre, on n'a pas l'habitude de finir aussi tard. Donc voilà, physiquement, on a l'habitude de gérer ça. Il faut juste un peu adapter par rapport aux habitudes qu'on a sur les mois de fin de compète, etc.
Ok. Bon, bah trop cool. Bah écoute, on parlera un petit peu de ton orga. Je suis très curieux de savoir comment est-ce que tu planifies ta saison, comment est-ce que tu choisis tes courses, qu'on puisse expliquer un peu aux auditeurs qui sont un peu moins au fait du triathlon que moi, les différentes courses qu'il y a, parce qu'entre les Grands Prix, la WTS, faut comprendre un peu aussi. Mais donc si tu veux, on pourra l'aborder un peu plus tard, mais pour l'intro, les auditeurs fans du podcast sont habitués à la question traditionnelle, qui est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Eh ben, figure-toi que je me rappelle très bien de ma première séance natation avec le club. Donc, j'avais autour de 7 ans. Et en fait, dans beaucoup de clubs de natation, il y a un petit test en début d'année pour voir après où ils mettent les gamins, dans quel groupe on va, en fait, en fonction du niveau, de s'ils savent nager ou pas, notamment. Et moi, je m'étais pété le poignet un mois avant, comme je me suis souvent pété d'ailleurs. Et du coup je me suis pointé, tout le monde avait déjà commencé à nager et tout, et puis je voulais être dans le groupe de ma cousine parce que je voulais pas être tout seul. et je me retrouve dans ce groupe là et tout, je fais toute la séance et à la fin elle me dit ouais mais tu t'es mis toujours derrière, je veux te voir nager pour savoir si tu restes dans ce groupe là ou pas. Et donc j'ai fait une petite longueur, elle m'a dit non bah tu vas aller dans le groupe du dessus, et j'ai pleuré et tout, je voulais pas y aller, j'avais peur. Et voilà. c'était pas dit que j'y reste aussi longtemps après.
Donc c'était toi qui voulais être dans un groupe moins fort pour rester avec ta cousine, c'est ça?
Ouais, voilà, moi l'aspect sportif, il y avait aucun intérêt, je savais qu'il y avait ma cousine, voilà, j'étais plus à l'aise. Quand j'étais petit, j'avais du mal à aller au contact un peu des autres et tout. Maintenant, ouais, c'est différent, mais ouais, j'étais un peu timide, on va dire. Et donc le fait de connaître quelqu'un et tout, j'étais content. L'autre groupe, ils faisaient un peu des compétitions, moi ça me donnait pas trop envie à la base, et au final j'ai vite pris goût.
C'est marrant ça, tu vois, comme tu as les personnalités, elles peuvent changer, tu vois, entre l'enfant qu'on est. Moi aussi j'étais très timide quand j'étais petit, tu vois. Et c'est à l'arrivée du collège où je suis devenu un peu plus turbulent, un peu plus hyperactif, un peu plus social aussi. Et toi, c'est la natation, ça a joué un peu à te développer, à t'aider un peu à aller vers les autres et développer un peu l'esprit de groupe et aussi l'esprit de compétition.
Ouais, je pense que j'ai direct trouvé un bon groupe de potes en natation, en fait. Donc 7 ans, je sais pas, on doit être en CP, CE1 peut-être, ouais, CE1 je dirais. Et en fait, donc on s'est direct bien entendu et tout. Et puis à partir de la 6e, on était en classe sportive, ouais, tous dans le même collège, tous dans la même classe. Donc là, c'était la folie parce que en gros, de la 6e jusqu'à la fin de mon lycée, j'étais en classe avec les mêmes gars, on était en cours ensemble, à l'entraînement ensemble. Après, à côté, on faisait ce qu'on voulait faire ensemble. Enfin, on était toujours ensemble. Et donc, on était un peu dans notre monde à nous, mais on était un gros groupe. Donc, il y avait quand même un bon aspect social. Et c'est vraiment des très bons souvenirs, les années collège-lycée, quoi.
Ouais, j'imagine. C'était que des nageurs dans la classe?
Ouais, il y avait beaucoup de nageurs qui, après au lycée, on est deux à être devenus triathlètes. Il y en a un qui avait arrêté, il y en a quelques-uns qui nageaient encore. Puis on a côtoyé d'autres sports au fur et à mesure, mais notre groupe, c'était vraiment des nageurs.
Et il y en a qui ont fait du haut niveau?
Ouais, ben il y avait notamment Jordan Potin,
okay, ouais,
qui fait finale à Rio sur le 400 mètres. Et puis après j'en ai deux avec qui je m'entraînais, des très bons potes à moi aussi, et qui ont arrêté jeunes mais qui ont fait des championnats de France, un en tri, l'autre en natation, des trucs comme ça, mais voilà, ouais, il y avait un bon niveau.
Trop chouette, trop chouette. Et tu te souviens de ce qui t'a plu, de tu vois, dans la natation, moi je sais que je me suis mis très tard sur la natte, c'est mon gros défaut, je nage comme une enclume quoi. Même encore après des centaines d'heures d'entraînement et de cours avec des profs, tu vois. Et au début, c'était vachement dur parce que j'avais l'impression de compter un peu les carreaux, d'être seul avec moi-même aussi, donc c'était un peu dur. Toi, tu te souviens de ce qui t'a plu et de dans les sensations ou même dans en dehors du groupe, tu vois, qui je pense.
Alors c'est dur à dire. Je sais que à la base j'ai eu envie d'y aller parce que mon père il faisait de la natation, ses frères et sœurs ils en faisaient, puis ils ont fait du water polo. Enfin, ils étaient vraiment dans le milieu de la piscine quand ils étaient jeunes et j'avais envie de faire un peu pareil. Mais ça c'était vraiment au tout début. Et après je pense que c'est vrai que l'aspect groupe il a beaucoup joué pour moi. Okay. J'aimais être dans l'eau, même si pour le coup j'étais vraiment frileux, donc quand j'étais petit les premières années je finissais pas toutes les séances, je les finissais souvent sous la douche, mais ouais, voilà. Et après je pense que la compète est assez vite rentrée en compte aussi, parce que avec ce groupe là on était dans ce mood là et donc bah voilà, t'avais envie d'aller à l'entraînement parce qu'après il y avait les compètes, les machins, et c'était vraiment en bonne ambiance. C'était pas ouais je veux faire de la compète, je veux gagner machin, mais c'est je voulais progresser et être avec mes potes qui faisaient la même chose, quoi.
Ouais. Et t'étais compétiteur aussi quand t'étais plus jeune? T'as eu vite l'envie de la gagne, l'envie d'aller gagner des médailles?
Ouais, de ouf. J'ai toujours été à fond. Je pense que mes 3-4 premières compètes de natte, c'était la catastrophe. Là, la première, j'ai vu finir dernier des deux épreuves. Le coach, il m'encourageait sur le bord du bassin. J'ai cru qu'il voulait me parler. Je me suis arrêté. J'ai fini, j'ai pas touché le mur. Enfin,
okay.
C'était compliqué, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre du plaisir. Et après, quand j'ai commencé à gagner une ou deux médailles, j'étais vraiment content, alors que ça faisait un an, et c'était vraiment les compètes dans le club. C'était frustrant de jamais en avoir, de voir les autres qu'en avaient et tout. Je me rappelle de ça. Donc je pense que ouais, dès le début, j'étais bien compétiteur.
Ok. Et t'as vite eu des résultats, vite eu des capacités par rapport aux autres?
Disons qu'on était un bon groupe. On avait tous un bon niveau à l'échelle de l'agglo, hein. Ouais. Mais j'avais des résultats à ce niveau-là, donc vraiment à une toute petite échelle. Mais voilà, et je pense qu'on se poussait un peu entre nous. C'était un peu la compète à celui qui aurait les meilleurs trucs dès le début, quoi.
Ouais.
Après, j'ai pratiqué aussi beaucoup de sports différents. Et à chaque fois, il y avait un peu cette notion-là que j'aimais bien, ouais.
T'as fait quoi d'autre?
J'ai fait du hand, notamment. Okay. Je me suis même posé la question à un moment entre la natation et le hand à l'époque, je me rappelle. J'ai fait après j'ai fait du judo, un peu d'athlé avec mon père, je faisais beaucoup tout ce qui est snow, VTT. J'ai fait du cirque aussi.
OK.
J'aimais bien, bon, pour le coup, il y avait pas de compète mais
t'as
voilà.
Appris à jongler, à faire des saltos.
Ouais, des trucs comme ça, ouais.
OK.
Donc non, j'ai fait plein de trucs et je me rappelle en fait mes parents, ils m'amenaient au forum des sports. En okay. début d'année, et c'est moi qui choisissais. À chaque fois, je choisissais deux ou trois sports. Et j'y étais presque tous les soirs, mais j'avais besoin de ça aussi pour me canaliser un petit peu.
Ok, ouais. Donc dès le début, il y avait un avant-goût du multisport, quoi. D'envie de toucher à plusieurs.
Ouais, j'avais envie de me dépenser.
Mais franchement, c'est trop cool. Tu vois, ces forums du sport où tu peux tous les ans tester un nouveau truc. Moi c'est trop cool, enfin moi j'en avais un aussi dans ma ville et je sais que ça m'a permis d'explorer, de tester, d'être un peu touche à tout, de goûter à plein de sports différents et je trouve pour un enfant c'est génial quoi parce que c'est dur de trouver son sport, tu vois,
ouais,
le
c'est
sport
ça.
Dans lequel tu te plais avec les gens qui te plaisent, avec les coachs qui te plaisent, avec tout ça, c'est pas toujours évident quoi.
Je trouve que c'est super important et puis quand t'es gamin, tu les connais pas tous les sports et du coup le fait d'aller, de voir, il y a des fois des petites démos, des petits machins. C'est ça qui va te donner envie en fait. Ouais. Et puis du coup, au moins, tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que t'aimes pas. Et en plus de ça, je pense que c'est très formateur parce que tu vas développer des bonnes habiletés motrices pour la suite, etc. Même si c'est pas le but au début. Mais toujours est-il que moi, qui maintenant me retrouve à faire du sport de haut niveau, je suis content d'avoir touché à tout quand j'étais petit.
Ouais. Non, et puis même pour un humain lambda, pour le commun des mortels, comme j'aime dire, tu vois. T'as une mémoire musculaire quand même ou une mémoire de motricité qui fait que bah explorer plein de sports, ouais, tu développes ton intelligence physique, ton équilibre de manière générale, plein de motricité, donc c'est bon dans tous les cas, je pense que c'est,
ouais,
c'est tout bénef,
quoi. Puis socialement aussi, je pense. Je sais plus avec qui j'en parlais il y a pas longtemps et je trouve que c'est vachement plus facile de nouer des liens quand t'es gamin, si en plus t'es un peu introverti et tout, dans le milieu du sport qu'à l'école, parce qu'à l'école tu vois tout le temps les mêmes pendant longtemps, etc. Alors que dans le milieu du sport, tu les vois une ou deux fois par semaine, tout le monde est dans le même mood, tout le monde est là pour la même chose et du coup ça, tu crées des liens plus facilement, je pense.
Ouais, et puis il y a une notion de plaisir comparé à l'école.
Ouais, bah ouais, c'est du jeu, quoi.
Tu crées plus des liens avec les autres, quoi.
Ouais, je pense.
Ouais. Et t'étais comment à l'école?
Dissipé. Ouais, non, en fait, j'ai toujours eu du mal à tenir en place.
Ouais.
Donc ça se voyait à l'école. Je parlais, je me retournais, j'étais. Au passé la première heure, j'avais plus trop de capacité de concentration. Après, ça se passait globalement très bien. Primaire, collège. En fait, le problème, c'est que je bossais pas trop, puis j'étais à fond dans le truc de la natation et tout. Donc, tant que c'est pas trop dur et qu'en écoutant en cours un minimum, ça suffit. Donc, primaire, collège, ça allait très bien. Au lycée, ça a été un peu la. C'est devenu plus compliqué. D'année en année, je voyais que ça descendait. J'ai réussi à avoir le bac. l'essentiel était assuré, mais ouais, c'était pas trop pour moi. Et surtout, en fait, j'étais tellement à partir du collège. Tellement à fond dans mon truc de la natation, etc., parce que j'adorais ça et que je pensais qu'à ça, que les cours, j'avais plus de mal à m'y mettre. Quand je rentrais de l'entraînement, j'avais pas envie de faire mes devoirs, etc. Donc, ouais. Donc c'était un peu plus compliqué.
Ok, ouais, donc un peu dissipé, un peu d'énergie à revendre et difficile de tenir en place quelques heures pendant sur une chaise, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ok.
C'est la concentration qui me faisait un peu défaut. Ouais. Je devais pas être forcément toujours très agréable pour les profs. Après, c'était pas du manque de respect ou quoi que ce soit. J'avais pas envie de mettre le bordel plus que ça. Mais c'est juste que j'avais du mal à tenir en place, quoi.
Ouais. Il y a eu des moments où c'était un peu dur. Justement, tu vois, je me reconnais pas mal dans ce que tu dis parce que j'étais pareil. Tu vois, j'avais beaucoup d'énergie. J'avais besoin de faire beaucoup de sport. Et je sais que, il y avait des moments, la fin de matinée, ça commençait à être chaud et j'ai eu certains profs qui m'ont pris en grippe, tu vois, juste parce que j'avais le cours avec le mauvais horaire pour moi, tu vois, soit en fin de journée ou en fin de matinée, où tu viens de passer 4 heures sur une chaise, t'en peux plus, t'as qu'une seule envie, c'est d'aller manger, d'aller faire un foot avec tes copains dans la cour, tu vois. Et moi, il y a eu des moments où, ouais, je me sentais pas forcément bien, mais tu vois, j'ai eu perdu un peu confiance en moi à cause de certains profs qui ont pas, tu vois, qui me voyaient comme un élément perturbateur, comme pas concentré, comme soi-disant j'aimais pas leur matière, alors qu'en fait j'avais juste envie de bouger, quoi, tout simplement.
Ouais, bah je pense qu'au collège ça se passait relativement bien, donc déjà on était dans une vraie classe sportive.
Ouais, et ouais, donc
puis on avait
le contexte est posé déjà.
Ouais, le contexte est posé. Puis moi ça suivait encore, j'avais des très bonnes notes encore au collège parce que voilà, j'avais la chance que j'enregistrais assez vite, etc. Donc ça se passait encore bien. Mais j'ai commencé à vraiment augmenter la charge d'entraînement en troisième.
Ouais.
Donc en troisième, ça m'arrive.
14 ans à peu près, ouais.
Ouais, 14-15 ans, je pense. En troisième, ça m'arrivait de m'entraîner 10 fois par semaine. Donc souvent, j'allais nager le matin avant les cours.
Ok.
Genre 2 fois dans la semaine. Puis le mercredi, le samedi, je nageais 2 fois aussi. Donc là, quand tu nages de 7h à 8h30, t'arrives en cours, t'as envie de dormir les deux dernières heures. Mais au moins, j'étais assez calme, ouais. Donc voilà, et c'est vraiment au lycée que ça a été compliqué parce que là, pour le coup, je m'entraînais beaucoup. Je commençais à partir en déplacement, notamment en terminale, à faire les stages, les compétitions et tout. Et puis tu commences à prendre des réflexions des profs comme quoi il faut choisir entre le sport et les études, que c'est pas le sport qui va te faire manger, etc. Enfin pareil, ils te prennent un peu en grippe, quoi, ils sont un peu désagréables. Alors il y en a qui étaient très bien, mais certains étaient un peu désagréables. Et ouais, c'est vrai que c'était plus trop du plaisir à la fin, quoi.
Ouais, enfin,
même si ça n'a jamais été vraiment du plaisir.
Qu'on se le gâche pas.
Mais ouais, le lycée, c'était la période un peu plus compliquée pour le sport. Mais moi, j'étais tellement dans mon truc... du sport que je me suis pas posé la question, quoi.
Ouais. Dès le lycée, t'envisages de faire une carrière de haut niveau? C'est ça qui te motive ou est-ce que tu te dis, je vais le plus loin possible, voir le niveau que je peux avoir et puis, je choperai bien un job ou un truc dans ce passage-là ou peut-être direct en tête d'être athlète et d'aller chercher des médailles?
En fait, je me suis jamais posé la question jusqu'à ce que je devienne sportif de niveau avec
le statut,
etc. Mais je me suis jamais posé la question. Moi, j'étais déjà à l'époque où je nageais, quand à 15 ans tu nages 10 fois par semaine, tu peux. Mais moi, j'étais là à nager. j'aimais bien, je pensais à la prochaine compète, je pensais même pas à l'année d'après, mais voilà, j'étais. En fait, je me posais pas la question. Et c'est vrai qu'au lycée, c'était un peu la même chose. Quand je me suis mis au triathlon, j'étais dans mon truc, je me disais, ah ouais, là, il y a une compète, je veux faire ça. Cette compète, j'aimerais bien me qualifier pour la prochaine, etc. Mais ça allait pas plus loin, ma réflexion.
Okay.
Et en gros, je pense que la première fois qu'un club m'a proposé un peu d'argent, je devais avoir 19 ans. Donc, c'était ma première année de fac. Et je me suis dit, ah ouais, on peut gagner de l'argent. Je savais pas. Et donc, j'ai dit, ouais, cool, je viens. et puis, en fait, voilà, ça s'est fait progressivement. Mais à chaque fois, c'était par les objectifs sportifs, mais à court terme. Je me suis jamais dit, ouais, dans 10 ans, je vais être sportif professionnel ou je veux faire ci. J'étais là, ah ouais, bah cool. Là, si je fais cette compète et que je fais un bon résultat, je peux me qualifier pour cette compète qui est en fin d'année. Ah bah, j'ai envie de faire ça. Et je me posais pas plus de questions que ça, en fait. La première fois que j'ai réfléchi à plus d'une année, c'est peut-être en 2014, quand j'ai commencé à me dire, ah, ça va être un peu chaud pour les jeux, mais aussi, ça peut se faire, peut-être. Et du coup, là, j'ai commencé à me dire, ah ouais, dans 2 ans, peut-être que, mais avant ça, je pensais pas, je regardais pas 2 ans devant, quoi.
Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Bon, on va reparler un peu de ton parcours en junior, parce qu'en plus, t'as eu des super résultats. Tu fais vice-champion du monde en U23, et en U20, tu fais champion du monde, c'est ça?
En fait, j'ai fait champion du monde junior, donc, en 2013.
Ouais.
Et champion du monde espoir en 2014.
Ouais. Ça fout la pression, non? D'avoir des top résultats, parce que t'as quel âge à ce moment-là? T'as 20 ans, ouais.
Ouais, du coup, j'avais 20 ans, ouais. J'avais 20 ans. Bah ouais, du coup, c'est un peu ce que je disais. Du coup, à 20 ans, en 2014, je fais champion du monde espoir après avoir gagné en junior. Et du coup, tu dis, ah ouais, vas-y, il y a les jeux dans 2 ans. En même temps, t'as pas encore le niveau d'un élite, loin de là.
Ouais.
Et surtout, j'arrivais à avoir des très beaux pics de performance, mais j'étais aussi capable de faire des grosses bouses. Et en fait, j'ai un petit peu mis, on va dire, la charrue avant les bœufs, à vouloir courir toutes les WTS pour essayer de me faire des points, de me qualifier et tout. Et je pense que, ouais, pendant 2 ans, à vouloir gagner trop de temps, à être trop impatient, j'ai au final perdu un peu de temps dans ma construction en tant qu'athlète à plus long terme.
Ouais, mais c'est un peu le jeune qui est plein d'énergie et qui a envie de dévorer le circuit, quoi, c'est normal.
Ouais, voilà, et puis tu as toujours l'impression d'être en retard, même si tu es en avance, tu as toujours l'impression d'être en retard, donc donc ouais, j'avais du mal à relativiser et à faire les choses dans l'ordre.
Et attends, parce que depuis le début là, on a parlé de natation, là on vient de switcher au triathlon. Et j'ai lu dans ma préparation que tu avais commencé le tri à 16 ans, 17 ans au final.
Ouais, alors
tu peux raconter un peu comment tu fais le switch, parce que ça va super vite si du coup tu fais champion du monde à 19 ans.
Ouais, en fait donc
comment tu passes de la natation au tri?
Bonne question. alors c'était en première ou en seconde? Je sais plus, je pense que c'était en seconde.
Ouais.
Donc en fait, j'ai fait en seconde, je faisais encore de la natation, donc c'est en première que j'ai fait le switch, je dirais.
OK.
Et en fait, donc j'avais fait dans l'année de la première, j'avais fait tout l'hiver en tant que nageur. J'avais fait les championnats de France en petit bassin en décembre. J'étais en train de me préparer en mars avril, j'étais encore j'étais à 2 semaines. Je me rappelle, en fait, j'ai arrêté un jour la natation sur une séance. En fait, j'étais en train de me préparer pour les championnats de France jeunes qui étaient en avril. Et en fait, 2 semaines avant, et puis j'étais sur une séance et tout, j'arrivais pas sur cette séance. Puis à l'époque, ça se passait pas très bien et tout. J'avais pas trop, j'en avais un peu marre et tout. Et puis pendant la séance, je me suis un peu engueulé avec le coach avec qui j'étais à l'époque, mais une petite engueulade entraîneur, athlète, coach, rien de méchant, quoi. Et je suis sorti de l'eau et j'ai dit au milieu de la séance, et j'ai dit ouais, j'arrête.
Ok.
et du coup mon ancien entraîneur qui entraînait 2-3 triathlètes, notamment un très bon pote à moi, le lendemain je l'appelle et je lui dis ouais, je suis sorti, j'ai arrêté entraînement en triathlon. Et et du coup il me dit t'es sûr et tout, donc mon père il était là, il me disait mais tu peux pas arrêter. Je crois qu'il était président ou vice-président du club de natation à l'époque. Je dis, mais tu peux pas arrêter comme ça, t'es sûr, enfin ça fait 10 ans que tu fais ça à fond, et là d'un coup du jour au lendemain je suis ouais non c'est bon j'arrête. Et je me suis mis au triathlon comme ça ce jour-là. Donc j'ai pas fait les championnats de France de natation parce que j'avais décidé de me mettre au triathlon. Et voilà, j'ai fait quelques semaines d'entraînement donc avec mon pote de l'époque. Et puis je suis arrivé au championnat de France de duathlon. Globalement, le niveau physique était pas mal. Je fais 5e, je crois, avec les 2 meilleurs temps course à pied. Bon, c'est une catastrophe à vélo parce que j'arrivais pas à rouler droit, j'étais pas à l'aise dans un pack et tout, mais du coup suffisamment pour que ça me plaise, quoi. Et donc après, j'ai commencé à m'entraîner un peu plus sérieusement l'été. J'ai fait les championnats de France de triathlon où je fais 2e, donc j'ai eu une première petite sélection.
Ah ouais, direct.
Et tout.
Ok, ouais.
Et voilà, c'est comme ça que je m'y suis mis en 2011, du coup.
Ouais.
2011, ouais.
Ouais, donc t'as assez rapidement des résultats et ça te motive et du coup t'es parti pour.
Ouais, exactement, ouais.
Et tu courais un peu avant et tu faisais un peu de vélo ou pas du tout?
Alors, j'ai fait pas mal de VTT avec mon père le week-end, comme ça. Ouais. Mon père, il faisait du VTT un peu tous les week-ends, du coup, souvent, il m'emmenait et tout, et je kiffais, mais j'en faisais moins depuis 2-3 ans, parce que, du coup, je nageais beaucoup.
Ouais.
Et la course à pied, en fait, le club de nat nous faisait faire les cross UNSS. Donc, des cross au collège, quoi.
Ouais, je vois très bien.
Départementaux et académiques. Et du coup, à la reprise aussi, souvent, le premier mois, vu que la piscine était en vidange, il nous faisait courir un petit peu, on faisait des foot, machin. Enfin, le premier mois, c'était un peu multisport avec le club de nat, mais c'est tout.
Ok. Ouais, mais c'est le ouais, bon, c'est après c'est des petites courses, mais qui font que t'en as un peu dans les jambes, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Pas, ouais. Et puis je sentais direct que j'aimais bien courir et ça me paraissait presque plus naturel que la natation. Alors la natation, forcément, une fois que je nageais plein de fois dans la semaine, c'était devenu très naturel. Mais je veux dire, en feeling, c'était un peu plus naturel pour moi la course à pied dès le début.
Ok, ouais. Et du coup, c'est ça qui te donne envie de te mettre direct au triathlon?
Je pense que c'est pas mal l'ambiance qui m'a donné. C'est assez convivial le triathlon quand on commence, et encore maintenant d'ailleurs. Il y a une bonne ambiance. T'arrives sur une course, et tout le monde ensemble, t'es au bord du lac, il fait beau. J'avais mon pote et du coup après d'autres potes qui faisaient du triathlon, donc c'était ouais. Cool. Et puis au final, tu fais trois sports, c'est quand même sympa plutôt qu'un. Moi, ça marchait bien dès le début, donc forcément c'est grisant aussi.
Ouais.
Et voilà.
Non mais je suis assez d'accord avec toi, tu vois. Moi je recommandais à tous mes potes, tu vois, d'aller soit aller voir un grand prix de triathlon ou d'aller à l'arrivée ou sur le village d'un Ironman, parce que t'as toujours une ambiance un peu particulière où les gens se connaissent, tu vois, ils se disent bonjour, c'est assez convivial, il y a des codes, c'est une petite famille, tu vois, et au final les gens se connaissent, tu vois, et ça s'apprécie, tu vois, je trouve, et c'est vrai que ça en fait un sport assez assez convivial.
Ouais, finalement. Ouais, et puis même avant la course, que ce soit au niveau régional ou international, je trouve que ça va moins jouer du regard, machin, comme en natation, essayer d'intimider les autres, parce qu'en fait, il y a le fait que, je pense, l'épreuve est tellement longue et difficile que tu te bats d'abord contre ouais. Toi-même, quoi.
Ouais, c'est vrai. Tu te dis, c'est pas un jeu de regard qui va te faire gagner 30 secondes.
Ouais,
quoi,
c'est ça.
Ça peut, bon, ça peut faire dégoupiller sur le mental, mais c'est pas forcément le premier truc qui jouait. Donc tu commences le tri, t'as tout de suite des résultats. T'es à 2 ans des jeux, t'es champion du monde espoir. Vice-champion du monde espoir.
Champion du monde espoir.
Champion du monde
espoir.
J'ai
fait vice-champion du monde, mais, plus tard, en fait, je suis retourné en espoir. En gros, il y a 4 années d'espoir.
Ouais.
La première année, j'ai gagné. Et la dernière année, la 4e, j'ai fait 2.
Ok. Pourquoi t'es revenu en arrière?
Parce que la fédération n'avait pas voulu me sélectionner pour la finale élite.
Ok.
Parce que j'avais pas fait les critères. Mais ils m'ont dit que j'avais pas le niveau. Et du coup, j'avais le droit de courir cette course, qui était en même temps, au même endroit. Et donc j'ai couru, mais c'est vrai que c'était stressant parce que je me disais, ouais, je peux faire que moins bien. Et effectivement, j'ai fait moins bien. Mais c'était quand même c'est un bon souvenir. On avait fait une échappée avec Léo et tout. C'était cool.
Ouais.
À l'époque, on s'entraînait ensemble. Donc.
Mais depuis combien de temps vous connaissez du coup avec Léo? Ça fait un bail.
Ouais.
Vous suivez sur le circuit.
Ouais, Léo, il a 2 ans de moins que moi. Donc vraiment, quand j'étais junior, que moi aussi je venais de commencer, je le voyais, on va dire, d'un œil, parce qu'il courait contre un gars qui était 2 ans plus jeune, avec qui je m'entraînais aussi. Mais après, je pense qu'il a débarqué fin 2015 à Grenoble.
Ok.
Et on est resté 5 ans ensemble, dont le début où on s'entraînait. Des fois, on est parti en stage dans le sud à deux.
Ouais.
On faisait la semaine, on prenait un appart. On faisait la semaine tous les deux, faire tous les entraînements tous les deux, donc ouais, on se connaît vraiment bien.
Ça aide justement d'avoir un super pote, justement pour passer un peu les grandes étapes d'une carrière pro, tu vois, où, parce que vous tous les deux vous avez super bien marché en junior. Derrière, il y a certains athlètes qui s'écrasent, tu vois, quand ils arrivent dans l'élite et qui ont vraiment du mal. Vous, forcément, tu vois, ça met un petit peu de temps avant d'aller choper tes premiers gros résultats, mais vous, ça a quand même été très constant, je trouve, hormis peut-être, tu vois, quelques courses où vous avez un peu plombé, mais ça aide justement d'être deux pour passer les jalons et avancer.
Ouais, je pense que c'est intéressant. En plus, on a un profil différent avec Léo. Donc, en gros, quand il est arrivé, moi, j'avais déjà fait quand même des résultats pas mal à l'international.
Ouais.
J'étais en train, du coup, de préparer un peu d'essayer de me qualifier à mes premiers jeux. Lui, il était encore junior, donc il avait pas encore couru en élite, etc. Et en fait, donc déjà sur l'aspect sportif, lui, tu prends sa carrière juste sur les 5-8 dernières années, c'est ouais. Un modèle de régularité, de
c'est clair.
Progression. Genre, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui ont fait. Il a réussi à faire une course à chaque fois mieux que la précédente pendant 10 ans, et ça, il y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Et moi, c'était plus des pics très hauts, des pics très bas et tout. Puis même dans l'approche. Il était très très carré sur tous les à côté, etc. Moi, l'entraînement, j'ai toujours été ultra investi à vouloir en faire plus, etc. Mais par contre, sur les à côté, j'avais du mal au début à être bien carré sur la bouffe, sur me coucher tôt, sur machin. Et donc, ouais. En fait, même si à l'époque sportivement, il était moins bon que moi quand on a commencé à s'entraîner ensemble, ça s'est vite, enfin, ça s'est vite nivelé, mais au début, en tout cas, c'était ça. En fait, il m'a beaucoup apporté sur plein d'aspects extérieurs aussi. Mmh. Je pense qu'on s'est tous les deux fait progresser. Et puis, quand tu passes 15 heures par semaine sur le vélo, t'inquiète que tu parles d'entraînement, qu'est-ce qu'on doit faire, machin. Donc je pense que ça, on s'est bien aidé, ouais.
Ouais. Puis quand t'as parlé assez d'entraînement, tu parles d'autres choses.
Ah ouais, bah, il faut trouver des sujets. Ouais.
Ok. Mais c'est vachement, je trouve, pas émouvant, mais tu vois, il y a un côté sympa, tu vois, de vous voir évoluer tous les deux et de voir performer aussi tous les deux. Et quand on voit des résultats comme le week-end dernier, forcément, tu te dis, putain, c'est chouette, tu vois, ce qu'ils vivent tous les deux. Bon, après, on se doute qu'il peut y avoir des clashs ou des petits moments où ça se dispute, mais en tout cas, ça fait une belle amitié, tu vois, une amitié saine, tu vois, où il y a un peu de compétition, mais avant tout de l'entraînement, parce que c'est la majorité de ce que vous passez ensemble, quoi.
Ouais, carrément, c'est cool. Et moi, je pense que, enfin, moi, en tout cas, c'est ma perception du sport et du haut niveau, c'est que il faut le partager, il faut pas être tout seul dans son coin, et pour avoir l'expérience complète, quoi.
Ouais.
Et partager le truc, et je pense que ça peut nous rendre que meilleur, donc tant mieux. Après, c'est clair que quand avant Tokyo c'était possiblement lui ou moi qualifié ou pour le relais, etc., il y a des moments où c'est un peu plus dur, mais après à la fin on arrive toujours à faire la part des choses. La course c'est la course, le reste, l'entraînement c'est l'entraînement. Enfin, c'est pas parce que t'es méchant avec un gars que tu seras meilleur que lui sur la course, donc voilà. S'il fait une bonne course, je suis content pour lui, et que moi je fais une mauvaise course, je suis déçu pour moi, et inversement, et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est cool.
Bah ouais, carrément. Tu penses que c'est important d'ailleurs pour avoir une bonne équipe, et on peut dire qu'on a une super équipe de France, tu vois, avec les résultats qu'il y a en relais mix, les différents résultats qu'il y a pu avoir. Je crois que c'est à Munich. C'était à Montréal l'année dernière aussi, où pareil, où vous faites un trio sur le podium.
Ouais.
Donc tu vois, il y a quand même un super niveau. Je pense que la France fait partie des grandes nations, tu vois, du triathlon. Et encore plus, je vais dire, ces 5-6 dernières années. Tu penses que c'est nécessaire et c'est important d'avoir une bonne ambiance dans les vestiaires, une bonne ambiance entre vous pour réussir?
Alors, je pense que d'un point de vue individuel, ce qui nous fait vraiment progresser, c'est le fait qu'on est nombreux. Là, c'est la densité.
Ouais.
Parce qu'en fait,
il y en a.
T'as beau être costaud, t'es jamais sûr d'avoir ta place sur les sélections, d'avoir ta place dans le relais et tout. Et donc, ça te pousse à être meilleur. Tu te reposes pas sur tes lauriers, quoi.
Il y a toujours eu 3-4 personnes qui étaient prétendants pour être en équipe de France, donc forcément ta place elle est toujours un peu à risque.
Ouais, c'est ça.
Donc ça pousse à se bouger, quoi.
Je pense que le fait qu'on s'entende bien et qu'on ait tous, on va dire, un peu l'intelligence de compartimenter la course et les à côté, c'est une grosse valeur ajoutée. Ça nous aide parce que bon, on passe quand même énormément de temps, alors même si on s'entraîne pas tous ensemble, mais sur des stages, sur des compétitions, etc., on les voit beaucoup. Et ça rend la chose beaucoup plus vivable qu'on s'entende tous. Et ça prend tout son sens quand on arrive sur un relais. Si t'aimes bien les gars avec qui tu cours, t'as encore moins envie de plomber le relais, t'as encore plus envie de faire le job pour eux, quoi.
Ouais.
Tu y vas en tant qu'équipe, et du coup ça divise un peu la pression, je pense aussi. Alors que si personne peut se piffrer, c'est plus compliqué. T'es là, t'as des individualités qui font une course, et bon, il y a pas cet esprit qui nous aide. Après, je pense que quand on regarde un peu les différents sports, le relais c'est un truc qui marche bien en France, donc
ouais.
À savoir pourquoi, je j'ai pas la réponse, mais c'est vrai que psychologiquement il se passe quelque chose, quoi.
Ouais, mais carrément. Il y a d'autres nations où tu vois que le courant passe moins et que du coup ça s'en sent sur les résultats.
Ouais, globalement ça se voit que il y en a, soit ils se connaissent pas trop, soit ils s'entendent pas trop, mais ils arrivent voilà pour faire leur course dans le relais quoi, pas pour faire la course en équipe.
mais en tout cas tu vois ça s'est senti à Tokyo. Alors moi j'étais un petit peu triste parce que je savais vos résultats tu vois et forcément tu te dis bon après plusieurs titres de champion du monde les jeux t'as envie de les avoir tu vois mais au final vous faites la première médaille olympique du triathlon français quand même. C'est quand même beau. On a quand même senti que vous étiez super content et que avec Émilie, Cassandre et Vincent, vous êtes quand même
Léonie.
À chaque fois je me trompe. Désolé Léonie si tu m'entends.
Même si Émilie était remplaçante aussi, mais ouais c'est Léonie.
Mais à chaque fois je les confonds. Les deux noms c'est horrible. Mais on sentait que vous étiez heureux et qu'il y avait une énergie quoi. Vous y allez dans quel état d'esprit sur ce relais?
Bah nous on y allait, alors forcément il y avait de la pression etc, mais on y allait pour gagner parce que on avait gagné comme t'as dit les trois derniers championnats du monde, le test event. Au final on a même gagné après le championnat du monde cette année, donc c'est clair que sur le papier bon troisième c'est, on peut prendre ça un peu comme une petite défaite. Et sur le moment, c'était un petit peu, c'était partagé, on va dire, comme sentiment, parce qu'on était très content de faire une médaille. T'as beau être ultra favori, c'est des Jeux Olympiques et la médaille, il faut la faire. Ouais. Et on a réussi à la faire, donc c'est cool. Après, c'est clair qu'on aurait préféré gagner. Ça s'est pas passé. Je pense qu'on avait eu sur beaucoup de relais les années d'avant, tout qui s'alignait correctement, parce que il y a toujours besoin d'un petit peu de réussite, qu'il y ait aucun couac, etc. Et c'était le cas. Là, ça s'est pas tout aligné parfaitement. On a eu un poil moins de réussite que ce qu'on peut avoir. Mais sur la force de chacun, tout le monde a fait la course du mieux qu'il pouvait. Et sur la force de chacun, on a réussi à accrocher la médaille de bronze. En revenant en plus sur le dernier relais sur la tête, avec Vincent, qui nous a bien fait vibrer d'ailleurs, parce que voilà, il a vraiment tout tenté pour gagner quoi.
Ouais, il a failli il part à l'attaque, c'est ça, sur le vélo, il y a l'anglais
ouais,
qui est devant lui.
Il revient sur l'anglais après avoir bouché un gros trou et en plus il attaque directement, il a essayé, il savait que l'anglais était très fort à pied, il a joué avec ses forces à lui et voilà et donc c'est vrai que jusqu'au dernier moment on y a cru et il y avait un tout petit goût d'inachevé, mais en fait, en relativisant, on était déjà très content de...
Ouais. Qu'est-ce qu'il a manqué, selon toi?
En fait, donc on avait fait le choix en tant qu'équipe, parce que c'est vraiment nous, les athlètes, qui décidons de l'ordre et de la stratégie, de mettre Léonie en première relayeuse. Malheureusement, il y a eu une échappée à la sortie de la natte. On savait que elle a pas le niveau pour prendre les échappées s'il y a une ou deux filles qui se barrent. Et en fait, en général, ça se regroupe tout. Et là, c'est vrai que les filles devant, elles ont été fortes, elles ont réussi à maintenir l'écart. Donc, ça a mis notamment les Anglais et les Américains un peu sur orbite. Mais après, derrière, elle fait une super course, elle court super vite, etc. Et donc voilà. En fait, elle a fait la meilleure course qu'elle pouvait. Elle fait une très bonne course. C'est juste qu'il s'est trouvé que les nations, elles ont réussi à bien s'entendre devant. Ouais. Et c'est pas toujours le cas. Donc voilà, derrière moi, pareil, j'essaye de faire une bonne course. Ils sont quatre devant moi. Je me retrouve heureusement avec le Belge qui m'aide beaucoup à vélo. Je prends un petit trou en natte aussi. Donc voilà, on a tous fait une bonne course, mais avec nos forces et faiblesses du moment, quoi.
Ouais.
Donc pareil, voilà. En fait, il y a plein de petits trucs où ça aurait pu basculer du bon côté et ça l'a pas fait. Mais au final, c'était quand même globalement tout le monde a fait une bonne course, sinon on n'aurait pas fait la médaille.
Ouais, bah clairement. Mais et puis c'est aussi un peu, c'est la beauté du tri, tu vois. Tu peux faire les meilleurs temps sur la piste, être celui qui envoie le plus de watts, tu vois, ou celui qui fait les meilleurs temps en piscine, mais le jour de la course, il y a trois sports, et du coup, t'as trois fois plus d'imprévus, il peut se passer trois fois plus de trucs, et c'est pour ça que c'est un sport un peu magique, quoi, avec des courses qui sont vraiment loin d'être jouées à l'avance, quoi.
Ouais, carrément, parce qu'en fait, c'est pas comme, on va dire, de la natation ou de l'athlé sur la piste où chacun est dans son couloir. Chacun va courir le plus vite possible ou nager le plus vite possible, et le plus rapide à l'arrivée, il a gagné. Nous, alors c'est clair que celui qui passe la ligne d'arrivée en premier, il a gagné. Mais suivant les dynamiques de course, c'est pas forcément le plus fort ou c'est pas forcément le plus complet. Et ça peut vite tourner, que ce soit en natation, à vélo, même en course à pied par rapport aux efforts qui ont été produits avant sur le vélo. Donc en fait, jusqu'au dernier moment, on peut pas vraiment savoir. Donc nous, notre but, c'est d'arriver avec le plus d'armes possible pour avoir le plus de contrôle possible sur la course. Mais on peut jamais échapper au fait qu'on dépend des autres aussi, quoi.
Ouais, bien
sûr. Et dans un relais, c'est multiplié par 4.
Donc, ouais, ça joue. Ouais. Mais ouais, bah, en tout cas, c'était une, vraiment une belle course. Et puis, c'est vrai que, tu vois, c'est moins, autant le triathlon peut être télévisé de temps en temps, autant le relais, ça l'est très rarement. Et là, c'était cool, du coup, de, comment dire, d'avoir une course en relais, qui était médiatisé et de voir un peu comment c'était fait. Vas-y, à tes souhaits.
Fais-toi plaisir. Désolé.
Il y a pas de problème, à tes souhaits. Mais chouette souvenir. Est-ce que c'est un de tes, c'est quoi ton meilleur souvenir d'ailleurs de course? Ta plus belle course?
Des bons souvenirs, je commence à en avoir pas mal, donc c'est cool.
Ouais,
j'en ai quelques-uns, mais ils sont différents. Je pense que celui qui m'a procuré le plus d'émotions, c'est ma victoire sur la WTS des Bermudes.
Ouais.
Parce que...
C'est en 2019, c'est ça?
2019.
Ouais.
Sur un CD. À l'époque, c'est vrai que j'avais un peu la réputation d'avoir du mal à passer sur CD, d'être meilleur sur sprint et tout. Donc, je gagne ma première WTS sur CD, c'était quand même quelque chose.
CD, pour préciser aux auditeurs qui connaissent pas, c'est la distance. C'est le format.
Ouais. Donc CD, c'est 1500 mètres natation, 40 km de vélo, 10 km de course à pied.
On dit aussi M.
Ouais.
Ou format olympique.
Maintenant, on dit M, c'est vrai.
Ouais.
Et sinon, des fois, on a des distances qui sont moitié plus courtes.
C'est le sprint ou le S.
Et voilà. C'est ça.
Voilà.
Et donc, en plus, il y a pas de souci. En plus, c'était une période où j'étais vraiment pas très bien. J'avais plus trop d'envie de m'entraîner. J'avais pris une grosse désillusion un mois et demi avant. Je comprenais pas. J'avais l'impression que j'y arriverais pas. J'avais limite envie d'arrêter l'entraînement, etc. Donc, je me suis pointé là-bas un peu amoindri. Okay. J'étais même un peu blessé. Ça faisait une semaine que j'arrivais pas trop à courir et tout. À croire que ça m'a réussi de pas courir. Et au final, ouais, je fais une super course. Je gagne la course et tout. Donc, ça a fait un gros ascenseur émotionnel entre avant la course et après la course. Et donc pour ça, et d'autant plus que j'ai vraiment eu des très bonnes sensations, le genre de sensations qui arrivent pas souvent. Donc non, c'est vraiment un bon souvenir. Ouais.
Il se passe quoi ce jour-là? Tu te dis j'ai rien à perdre, je suis mal préparé, du coup t'y vas avec une liberté d'esprit qui est différente. C'est selon toi, si tu dois analyser un peu plus en détail cet événement, qu'est-ce qui le fait de pas avoir couru qui te repose, et du coup, tu sais, des fois ça fait du bien un peu d'avoir un peu un trou dans la préparation quand même. Mais...
Ouais, bah, moi déjà je pense que je travaille beaucoup en prépa mentale parce que ça a toujours été un point faible chez moi. Et c'est vrai que la plus grosse réflexion que j'ai pris le plus souvent, etc., c'est ah ouais, mais toi, problème c'est dans la tête, on sait que tu peux le faire, etc. Mais en fait, dire à quelqu'un qui a du mal à psychologiquement à pas stresser ou à mettre ça en place le jour de la course, c'est comme dire à quelqu'un qui court pas assez vite ah mais toi le problème c'est que tu cours pas assez vite.
Ouais.
On le sait, mais trouver la solution, c'est pareil en fait. Et il y en a qui sont très forts physiquement et qui auront toujours du mal à passer. Il y en a, leur point faible ça va être qu'ils sont très forts mais qu'ils se blessent. Il y en a d'autres, ça va être voilà. Et en fait chacun son point faible, moi je sais que c'est ça. Et donc je pense que ça m'a je pense que ça m'a, c'est clair que le fait de pas être très en forme, de pas savoir trop où j'en étais, bah au moins je me suis mis zéro pression, quoi.
Ouais.
Et je me rappelle, deux jours avant la course, j'étais allé voir le coach national. Je lui dis ouais, écoute, c'est pas sûr que je puisse courir. Si c'est pas le cas, je ferai le domestique pour aider les gars en vélo, quoi.
Okay.
Au final, avant la course, je savais que j'allais courir, mais j'ai décidé ça la veille au soir, quoi. Et puis je m'étais dit bon ben, vu que tu sais qu'à pied c'est un peu limite et tout, quand tu pars à pied, tu regardes pas les autres, tu baisses les, parce que ça part très vite en triathlon.
Ouais.
En fait,
Autant ouais, vous en faites la transition et on voit que ça dégomme ouais, direct.
Autant en athlée, les gars, ils essayent d'avoir un pacing bien plat pour aller le plus vite possible. Autant en triathlon, déjà, tu poses le vélo, tu allais plus à 180 en général.
Ouais.
Et puis, ça part un petit peu à l'intox, etc. Et donc, en fait, ça part très, très vite. Et moi, j'ai un peu de mal avec ça, en plus. Et donc là, je m'étais dit, bon, tu t'en fous des autres, tu baisses les yeux et tu pars à l'allure à laquelle tu sens que tu peux courir 10 bornes, mais pas plus vite, quoi. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis mis dans ma bulle et fin du premier tour, j'étais 15 secondes ou 13 secondes derrière la tête, je crois. Et okay. Sauf qu'en fait, j'ai vraiment lissé mon allure et à un moment donné, je lève la tête et j'étais en train de revenir sur eux. Et à partir de là, je me suis dit, bon, vas-y, reste dans ton truc à fond. Et donc, je suis rentré sur eux comme ça. Et après, on était quatre. Puis ça s'est joué au finish. Il y avait une bosse, j'ai attaqué dans la bosse. Et... Donc après, c'était du bonus, quoi. Mais ouais, vraiment, toute la mise en route, la première partie de course à pied, c'était mon objectif, c'était juste de faire ma course.
Ouais.
Et je pense que ça m'a beaucoup aidé.
T'es dans le flow sur les derniers kilomètres. Tu sens qu'il se passe un truc.
Ouais, je sens que je suis.
T'as les jambes légères.
Alors c'est toujours très dur. Hein, c'est des même quand t'es bien.
Ouais.
C'est quand même dur. Tu sens que t'as plus trop de marge, quoi. Tu vois. Ouais. Musculairement et tout, tu sens que ça devient dur. Mais chanter que j'étais c'était très dur mais que j'étais pas j'avais encore un tout petit peu de réserve et puis je sais que j'ai quand même la capacité de finir vite donc je me dis bon t'attends le plus possible et si t'es encore là bah tu mets la plus grosse cacahuète que tu peux mettre et puis on voit ce que ça donne quoi
ouais.
Et en gros j'ai attendu ça a accéléré un peu mais rien d'insuivable. Du coup, quand j'ai pu la mettre, j'en ai profité et ça s'est bien passé.
Ouais. Ben moi, c'est un des trucs que j'adore dans le tri à regarder, mais à en faire, ouais, c'est que l'allure, elle est, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Ça, d'un seul coup, ça avance, d'un seul coup, ça attaque, après ça ralentit, tout le monde se suit, ça peut repartir d'un moment ou un autre. Du coup, c'est beaucoup plus incertain, je trouve, tu vois, que sur un marathon où. Voilà, ils partent à la même allure et puis en fait c'est qui craque en dernier finalement, tu vois, plus le résultat quoi. Mais
ouais, c'est clair que tu sais jamais trop qui est parti trop vite, qui est bien dans son allure, qui va pouvoir accélérer, qui non, etc. Donc bon, il faut rester serein, faut avoir les nerfs solides.
Et tu dis que on te dit souvent que t'as pas le mental. Pourquoi on te dit ça?
C'est pas vraiment qu'on me dit que j'ai pas
d'ailleurs,
le mental.
D'ailleurs, on te le disait.
On me le disait, exactement. Non, là, j'ai trouvé pas mal de régularité ces dernières années et c'est cool, mais c'est vrai que, bah, parce que c'était, en fait, j'avais tendance à, pas à paniquer, mais voilà, soit, avec le stress, à être trop crispé, manquer de relâchement, etc. Et du coup, je perdais un peu mes moyens. Soit, à devenir impatient et, pareil, me faire un peu dépasser par mes émotions, etc. Ça m'est arrivé plein de fois. Mmh. Et moi, le premier, je savais que c'était en grosse partie ça. Mais donc, voilà, je faisais de la prépa mentale et j'ai commencé assez tard.
Mais à quel moment ça joue, du coup, tu vois, ce stress est sur les transitions où tu fais des bêtises? Ça peut. C'est des mauvaises stratégies de course, des moments où tu pourrais te placer ou tu le fais pas parce que, justement, t'es en train de penser à autre chose. Comment ça peut se matérialiser? Tu vois, parce que tu vois, quelqu'un qui connaît pas peut-être le haut niveau ou la prépa mentale, il va te dire que quand tu cours, quoi ça sert le mental entre guillemets, tu vois. C'est peut-être plus flagrant sur des sports peut-être d'affrontement, tu vois, comme le tennis ou la boxe, j'en sais rien, tu vois, que sur un sport où finalement t'es en train de courir et qui est plus un sport de résistance avec toi-même avant tout.
Ouais, en fait, moi déjà chez moi, j'ai tendance à être très tonique, beaucoup de tonus musculaire. Donc, il est super important que je reste relâché et que je me crispe pas parce que sinon, je perds énormément en efficacité, que ce soit en natation, en vélo, en course à pied. Je vais avoir plus de mal à respirer, le diaphragme qui va. Donc, en fait, tout ça, c'est des choses qui peuvent varier avec le stress, notamment sur une première partie de natation. En fait, il faut qu'on parte très vite pour arriver dans les premiers à la bouée parce qu'on on veut tous passer au même endroit. On est sur une ligne de 60 gars. Et si tu passes au milieu du groupe, bah c'est la machine à laver quoi, tu ouais. prends des coups, tu vois rien et tout. Et donc bah par exemple tout bêtement, si
tu,
si je suis
mal et tu perds beaucoup
si je suis moins relâché, en fait si en voulant aller trop vite, je suis moins relâché, et ben je vais aller moins vite et en plus je vais plus me fatiguer.
Ouais.
Et là tu commences à regarder partout, à te dire putain, mais ils sont devant, je suis loin, etc., c'est la cata. Et donc au final ça c'est, tu vas perdre pas mal tes moyens. Les transitions, c'est un bon exemple aussi. D'ailleurs, à Rio en 2016, je sors bien de la natation dans les 10 premiers, dans l'échappée qui était déjà clairement dessinée. Et je me dis putain, il faut vraiment que je sois dans ce groupe-là, fais une bonne transition. Je fais ma transition, je prends mon vélo et là, je vois la ligne. On a une ligne pour monter sur le vélo. On doit monter après cette ligne sur le vélo. Et en fait, avec le stress, je vois la ligne. Je me rappelle plus de la règle, s'il faut monter avant ou après. Donc j'essaye de monter avant, je me fais ah non c'est pas ça, je redescends, je fais tomber ma chaussure. Enfin bref, une catastrophe.
Ouais.
Et donc ça clairement, et donc c'est d'ailleurs suite à cet événement-là que je me suis dit bon allez, on commence la prépa mentale, on arrête. Je passe pas autant de temps à m'entraîner en natation, en vélo, en course à pied pour ne pas y arriver parce que je perds la boule pendant la course quoi. Et également pendant la course à pied, comme je disais, ça part très vite.
Ouais.
Mais tu peux être parmi les 10 meilleurs de la course et au premier kilomètre être 30e parce qu'en fait, tout le monde part très vite, même les gars qui sont moins forts que toi. Sauf que si à ce moment-là, dans ta tête, t'es pas serein, etc., tu vas pas voir que les gars sont partis trop vite. Tu vas voir que toi, t'es 30-35e et qu'il reste encore 9 bornes et que c'est déjà mal embarqué. Et donc pareil à ce moment-là, je peux à l'époque ça m'arrivait soit de un peu baisser les bras, soit de me tendre parce que je voyais que je voulais faire dans les 10 premiers, qu'il y avait tout le monde qui était là et que ça allait être compliqué et donc en fait tu te crispes alors que tout le monde peut partir vite en fait.
Bien sûr.
Et donc en fait, il faut de la patience. Ouais. Mais ça c'est pas un truc que j'ai.
Bah surtout sur 10 bornes, vous les faites en quoi, en 32, 33? Non, moins même.
Ouais, plutôt 30 minutes.
Ouais, 30 minutes. Ouais.
Moi actuellement, c'est plutôt 30 minutes.
Ouais.
Les meilleurs cette année, c'est 29-10, 29-15. Ça se gagne en 29-10 au jeu alors qu'il faisait presque 40 degrés. Enfin ouais, non, ça court vraiment vite.
Ouais, ouais. Ça blague pas du tout. Ça blague pas du tout. Mais et du coup, ouais, tu l'as tout de suite identifié après Rio, après cette course justement où tu loupes complètement cette transition, tu l'as tout de suite identifié en te disant j'ai trop de pensées. Qui peuvent me parasiter et qui me font oublier ta prépa, parce que j'imagine que tu vois cette histoire de ligne, tu t'as dû le travailler ou le voir la veille, tu vois, ou
ah ouais,
tu le répètes avec l'équipe.
C'est des choses que tu connais par cœur.
Normalement, tu sais. Puis tu l'as peut-être visualisé. Normalement, si tu fais un peu de boulot de visualisation, tu le visualises, comme ça, ça devient un peu plus un automatisme le jour de la compète, quoi.
Ouais.
Mais du coup, t'as direct identifié que c'était ça le problème.
Alors direct oui et non, après la course j'ai
donc le disais aussi j'ai
après besoin. La course ça a été vraiment le déclic.
Ouais.
Le déclic qui m'a fait me dire bon allez, là c'est sûr c'est ça, et toutes mes courses avant c'est sûrement ça aussi, mais par contre ça faisait 2 ans que une fois sur deux les courses je comprenais pas ce qui s'était passé, etc. J'étais là, j'essayais de trouver pas des excuses mais plutôt des explications un peu tirées par les cheveux et tout, alors qu'en fait à ce moment-là, j'ai réalisé que ça, c'était un problème récurrent, on va dire.
Ouais.
Et donc, à partir de là, j'ai commencé la prépa mentale. Donc, je pense que quand t'acceptes l'idée que t'as besoin de faire de la prépa mentale, même si je suis convaincu que tout le monde en aurait besoin, mais certains beaucoup plus que d'autres, mais à partir du moment où t'acceptes cette idée-là, je pense que t'as déjà fait une grosse partie du boulot. Parce que ça veut dire que t'acceptes que y a un souci à ce niveau-là et que tu peux gagner là-dessus. Alors que au début, je disais mais non, c'est pas ça, enfin, parce que c'est pas facile de s'avouer que c'est ça, c'est un peu un acte, on va dire de faiblesse en quelque sorte quoi.
Bah écoute, moi je suis pas d'accord avec toi, tu vois, mais c'est vu comme ça, tu vois, c'est vu comme ça par beaucoup d'athlètes, par beaucoup de jeunes, tu vois. Et d'ailleurs, on pourra leur expliquer peut-être ce que t'as mis en place, mais moi, je trouve que c'est une force, justement, tu vois, d'aller se faire coacher sur cette partie-là parce que on sait pas trop ce qui s'y passe, tu vois, on connaît pas trop les pensées des autres, on sait pas trop, et on sait soi-même qu'on peut avoir des pensées négatives ou des pensées parasites, tu vois, donc,
Mais maintenant, je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est plus, ouais, quand t'es jeune,
ouais,
que te dire, ah ouais, non, moi, mon problème, c'est ça. C'est pas facile de faire la démarche, quoi. Mais c'est vrai que, après, une fois que tu commences à travailler là-dedans, moi, j'étais du coup ultra enthousiaste parce que j'avais l'impression que c'était enfin un moyen sans souffrir de progresser.
Et ça a marché.
Et ça a bien, ça a pris du temps, mais ça a bien marché. Et je vis les compétitions beaucoup mieux, mais aussi l'entraînement. Et en fait, je vis tous les jours beaucoup mieux, même depuis que j'ai fait ce procès. Et que je continue d'ailleurs. J'ai prépa dans 2 heures, prépa mentale dans 2 heures, là. Okay. mais ouais, je le vis beaucoup mieux maintenant.
Trop cool. Bah, tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les filières, tu vois, de haut niveau, qui nous écoutent, qui écoutent un peu pour découvrir vos parcours, pour découvrir un peu vos petits secrets aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, un peu ce que t'as mis en place, tu vois, et qui a été vraiment, j'ai pas envie de dire les quick wins, tu vois, ou les raccourcis, mais en tout cas, ce qui a été vraiment efficace pour toi, et peut-être, tu vois, un exercice que tu pourrais recommander à plein de jeunes, justement, qui peuvent avoir un peu trop de pensées parasites, qui se sont reconnus un peu dans ce que tu racontais, tu vois. Si tu pouvais rentrer un peu dans le concret, ça serait top, tu vois, pour eux. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire?
Déjà, je pense que il y a 2-3 prérequis avant de commencer. C'est est-ce que je fais ça parce que j'en ai envie et que j'en ai besoin, ou est-ce que je le fais parce qu'on m'a dit que je devais le faire? Si je le fais parce qu'on m'a dit que je devais le faire, c'est déjà vachement moins efficace. Il faut être convaincu qu'on en a besoin.
Ouais.
Trouver quelqu'un en qui on a confiance, parce qu'en fait, ça implique de se livrer pleinement et de vraiment dire tout ce qui nous passe par la tête, même les choses qui vont pas nous faire forcément passer pour une bonne personne, etc.
Ouais.
Il faut c'est justement ça qui est important.
Donc, ouais, les mauvais côtés, les vices, les pensées parasites, les doutes,
exactement,
les peurs.
La façon de penser qui va te faire passer pour quelqu'un d'autre, etc. Mais en fait, c'est ça le problème.
Et on en a tous.
Et on en a tous. Ouais. C'est humain. Et je pense que moi, en tout cas, ça s'est beaucoup passé par la discussion plus que des exercices, etc. Même si il me faisait faire aussi de la relaxation, de la visualisation, de la sophro, etc. Mais c'était beaucoup beaucoup de discussions. Et en fait, l'un des premiers trucs que j'ai mis en place et que je continue à faire, c'est qu'à chaque fois que j'ai un problème ou que je suis énervé, je sais pas pourquoi, ou alors j'ai raté une course, j'arrive pas à savoir pourquoi, j'essaye de me poser la question à moi-même. Ok. Est-ce que t'as raté parce que ouais t'avais une crampe, parce qu'on trouve toujours des petites excuses, et ça va être de dire ok, est-ce que t'avais vraiment mal au ventre, ou est-ce que t'avais vraiment une crampe, ou alors est-ce que t'as paniqué parce que le gars il t'a doublé et que lui tu voulais pas qu'il te double, tu vois. En fait, c'est de te poser la question à toi sans en parler forcément parce que c'est plus facile, et d'arriver à être 100% honnête avec toi-même, parce que le jour où t'es 100% honnête avec toi-même, là tu vas commencer à essayer de trouver les bonnes solutions. Parce que si tu dis ouais j'avais mal au ventre et tout, c'est pour ça que j'ai arrêté de courir et tout, alors qu'en fait t'as arrêté de courir parce que t'étais 15e et que tu voulais être 5e, et ben tu vas essayer de soigner ton mal de ventre qui existe pas, et tu vas pas soigner le fait que t'as paniqué en regardant les autres, quoi. Et se poser la question, mais ça peut être pourquoi je suis tombé, parce qu'il y avait une tache d'huile par terre, ou parce que j'ai fait n'importe quoi en prenant mon virage. Et en fait, j'essaye de l'appliquer à tout ce que je fais maintenant. En gros, à me poser la question, à essayer le plus possible d'être honnête avec moi-même. Et des fois, au début, ça va te prendre une heure de te dire « Ouais, non, c'est vrai, c'est ça. » Et puis maintenant, j'arrive à le faire assez vite, et je pense que ça me fait gagner du temps, et ça me fait être un peu plus juste dans mes ajustements, justement.
Ok. Très cool. Très, très cool. Et je pense que c'est un super conseil, tu vois, qu'on peut avoir beaucoup chez les sportifs de haut niveau, hein. C'est, tu le vois souvent, les sportifs, même de manière générale, dès que tu fais de la compète ou dès qu'il y a un challenge, on est très bon pour se donner des bonnes excuses, ou pour se trouver des raisons, on va dire, à un échec ou à un résultat qui est moins bien que ce qu'on attend. Donc c'est top. Il y a d'autres choses que tu fais, je sais pas, de la méditation ou peut-être de la visualisation justement avant les courses pour être encore plus serein. Il y a d'autres petits exercices que t'as mis en place ou c'est essentiellement, tu vois, du travail justement où tu vas te livrer avec ton prépa et avancer là-dessus.
Ouais, il y a aussi du travail, un peu de respiration que je fais.
Ok.
Pour me permettre de me détendre, de faire justement baisser un peu le tonus musculaire.
Ouais.
Notamment de la cohérence cardiaque, en fait.
Ouais, top.
Ça consiste tout simplement à respirer et inspirer et expirer sur un rythme bien précis et qui va te faire te relâcher et du coup aussi mieux dormir, mieux récupérer. Donc ça, j'en fais pas mal. Et après, j'ai quelques petits exercices quand je me sens un peu stressé avant une course ou quoi, des méthodes toutes bêtes pour me recentrer un peu sur moi-même et me détendre. Par exemple, moi, je sais que voilà, si je sens que mes yeux commencent un peu à partir dans tous les sens avant la course, j'ai un peu mal à la tête, je suis pas centré sur moi-même, je vais discrètement serrer le poing bien fort en inspirant et puis le desserrer doucement, et en fait ça me permet de, c'est la méthode de Jacobson, quelque chose comme ça.
Ok.
Et à vérifier. Et ça me permet de me détendre et de me reconcentrer sur mes sensations, en fait. Bon, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça que, en fait, il en existe des tonnes de différents. Il faut juste trouver son truc à soi, et après c'est plus l'action de faire cette chose là dont on est à laquelle on est habitué, plutôt que la technique en elle-même qui va te faire du bien, quoi.
Ouais, exactement. Bah, tu vois, là, moi, je suis en train de me former à la préparation mentale. Pas forcément pour devenir préparateur mental, parce que je pense que si je faisais ça à plein temps, peut-être que je m'y perdrais. Peut-être, pourquoi pas accompagner quelques athlètes pour vraiment me mettre dedans. Mais un des trucs qu'on nous apprend beaucoup, c'est qu'il existe des tonnes d'outils ce qui est compliqué en étant préparateur mental, c'est de passer du temps à essayer de trouver celui qui convient à l'athlète, tu vois. Et il y a pas de méthode miracle qui marche avec tout le monde. Il y a des exercices qui reviennent souvent, tu vois, comme effectivement la cohérence cardiaque. C'est génial, tu vois, comme exercice. C'est presque mathématique, ou enfin, en tout cas, c'est hyper prédictible, quoi. Si tu le fais, c'est physique. Ça va ralentir ton rythme cardiaque. Ça va vraiment te détendre. Mais sur les autres exos, il y a rien qui est systématique, quoi. Il faut toujours essayer de chercher et d'approfondir. Donc ça confirme bien ce que tu dis, quoi.
Ouais, et puis je pense que le plus important, c'est les discussions qui vont nous permettre de prendre conscience des choses, de qui on est, de relativiser aussi quand t'es un peu trop la tête dans le guidon. Et en fait, alors toutes les techniques sont importantes et intéressantes, mais le plus gros du travail, je pense, il est fait dans la discussion. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon ressenti personnel.
Ouais.
Et parce que des fois, en fait, on va te poser une question, tu vas répondre quelque chose parce que c'est, tu sais, voilà, tu le sais, tu vas répondre. Mais le fait de répondre à cette question, tu mets des mots dessus et ça va te faire prendre conscience de la chose en elle-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, bien sûr.
Mais je trouve que, en fait, mais ça marche dans la vie de tous les jours. Si t'es énervé envers quelqu'un, la meilleure chose, c'est d'aller lui en parler, parce que en lui parlant, tu vas déjà comprendre toi pourquoi t'es énervé envers lui. Mmh. Et puis ça va aussi te permettre de prendre du recul par rapport à ça, et puis voilà, quoi.
Ouais, de verbaliser, d'affronter un peu
ouais,
le problème.
Je pense que c'est important de mettre des mots sur ses émotions.
Ouais, bah c'est vrai que tu vois, c'est vrai qu'une émotion ou une pensée, elle peut venir, mais on peut, tu vois, notamment si c'est une pensée négative, on peut avoir tendance à la chasser. Et même si elle revient, tu vois, en permanence, essayer de l'évacuer un peu, de l'oublier et tout. Et le fait de s'arrêter de parler à quelqu'un pendant quelques minutes, au moins, tu vois, ça l'affiche, ça l'écrit.
Des fois, t'es tendu toute la journée, tu sais pas pourquoi, et quand t'en parles, tu dis, ah, mais c'est ça! Mais c'est con!
C'est bon, c'est sorti maintenant.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Très cool. On a beaucoup parlé de l'aspect mental, là. Mais s'il y a bien un truc sur lequel les triathlètes, vous êtes reconnu, c'est sur l'organisation et la planification et tout l'entraînement physique, parce que qui dit trois sports dit trois fois plus d'entraînement. À quoi ça ressemble aujourd'hui une semaine avec Dorian, semaine en termes d'entraînement? Comment est-ce que tu planifies? Donc tu passes par un coach, mais comment est-ce qu'il travaille? Est-ce que aussi t'as des coachs par discipline, tu vois? Je serais curieux de savoir un peu tu vois, pour un triathlète pro, justement, comment est-ce que s'articule l'organisation du programme et les semaines type, un peu le volume. partons comme ça. Tu vois, sur ma question qui est hyper large, mais vas-y, attaque le sujet et puis ça viendra de doucement, quoi.
Alors, moi, pour ma part, j'ai un seul coach pour les trois sports.
Ouais.
Plus un préparateur physique.
Ok.
Parce que c'est quand même très spécifique. Et c'est beaucoup le cas. Il y a beaucoup de gens qui ont que un coach, entre guillemets. Parce que, en fait, tout simplement, c'est bien de s'entraîner bien en natation, en vélo, en course à pied, mais il faut que ce soit coordonné. Si t'as le coach qui te met une grosse séance en natation, le coach d'athlète qui te met une grosse séance en course à pied le même jour, par exemple, bah potentiellement ça va pas matcher avec ton programme. Donc le fait d'avoir qu'un seul coach, ça facilite grandement la répartition des charges d'entraînement, en fait. En termes de chiffres.
Il y a d'autres triathlètes pros qui vont prendre un spécialiste sur chaque discipline et peut-être quelqu'un qui va coordonner ou qui va faire un peu parler tout le monde en...
Sûrement, il y en a qui ont un coach plus en natation et qui... Après, c'est franchement sur les athlètes internationaux que je connais et que je côtoie, je dirais que 95% a seulement un coach.
Ok.
Pour la raison que j'ai évoquée, quoi. Sinon, c'est une galère.
Et le coach, il bosse avec toi ou il bosse avec d'autres athlètes, du coup?
Donc, nous, on est 10 dans le groupe, 12. Okay. Une douzaine dans le groupe.
Et un coach qui est dédié pour les...
Et le
les
coach, deux. Par contre, ouais, il est là, on l'a H24. Mmh. Donc, c'est énormément de boulot pour le coach.
Ouais.
Parce que c'est pas de jours fériés, pas de week-end, peu de vacances, etc. Ouais. En fait, il vit comme nous, quoi. Donc, il n'y a pas de day off dans une semaine.
Bien sûr.
Après, voilà, moi, ce que j'allais dire, c'est que, en gros, je vais nager 5-6 fois dans la semaine. Je vais rouler, 6-7 fois. Et pareil, je vais courir autour de 7 fois en moyenne, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Plus une à deux séances de prépa physique, plutôt deux séances de prépa physique. Ça peut aller du renfo à la muscu,
ouais,
en fonction des cycles d'entraînement. Donc, en gros, ça va représenter une trentaine d'heures, dans la semaine. Ça peut monter à 35.
Ouais.
Et puis ça peut descendre un petit peu, notamment les semaines de course et tout, mais
c'est un costaud, parce que moi sur ma prépa Ironman, j'étais une plus grosse semaine, je crois que j'étais à 17h30, 18h déjà.
Ouais, après et nous c'est notre métier. On a pas de boulot à côté, je pense que ça aide bien.
Ah, mais c'est clair. Pour lui, tu vois, moi je suis entrepreneur, tu vois, quand tu te prends toutes les portes, t'as tous les trucs à régler, les problèmes de management, de recrutement, de vente avec tes clients, ouais, ça rajoute.
Quand t'es rincé et que tu veux aller nager le soir, j'imagine que c'est pas facile.
C'est pas facile.
Et nous,
du coup, je suis comme toi, je le fais le matin parce que sinon,
ouais,
j'ai pas la tête à ça, quoi.
Mais ouais. C'est marrant parce que dès qu'on a un truc à faire, les triathlètes que je connais, mais je pense que c'est beaucoup, genre aller faire les courses ou on doit aller quelque part pour acheter un truc ou peu importe ce que c'est. On a l'impression que ça nous prend une énergie folle et qu'on n'arrive pas à s'entraîner après. Parce qu'on a tellement l'habitude d'être dans un schéma, en fait, entraînement, nourriture, dodo, que dès qu'on fait un petit truc à côté, on a l'impression que ça devient compliqué, quoi.
Ouais.
Les trucs à côté, c'est aussi pas mal de récupération, les séances de prépa mentale aussi, mais la récupération, les kinés, les bains froids, tout ce qui tourne, voilà.
En fait, beaucoup de ça?
Ouais, moi, j'essaye d'aller une à deux fois chez le kiné par semaine.
Ok.
En prévention, en fait.
Ouais.
On a tous des problèmes un peu récurrents parce que
s'entraîner.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas forcément l'idéal pour le corps quand même de faire autant. Et puis après, ouais, la récup, j'essaye. J'utilise des bottes de compression chez moi. Ça marche bien. J'aime bien.
Ok.
Puis après, bain froid, etc. Enfin, ça dépend aussi un peu des périodes. Mais bon, c'est important de soigner ça. Mais ce qui fait qu'en fait, entre les entraînements, les à côté, plus des choses comme la sieste qui devient obligatoire parce que pour bien perfer, il faut être en forme. Pour être en forme, il faut dormir. Donc, en fait, ça prend énormément de temps, plus que 30 heures et après, on ferme le truc. C'est vraiment... Alors, moi, je me plains pas parce que c'est vraiment une vie que j'aime beaucoup. J'adore me lever, aller nager ou aller rouler, être dans la nature. Quand j'ai froid, on part au soleil en stage. Enfin, vraiment, c'est une vie cool, tu vois. Mais par contre, je fais mes 30 heures, puis après rideau, j'ai une vie normale. J'essaye de pas me coucher après 22h30 maximum parce que j'ai besoin de dormir. J'essaye de pas aller tous les jours au resto parce que il faut avoir les bons apports, etc. Même si on n'est pas trop à plein au niveau de la nourriture, on consomme tellement que moi je tourne en gros il faut que j'ai au moins 6000 calories par jour pour ouais. Pour rester en forme. Donc ouais, c'est costaud, on peut manger quoi, mais
t'es
voilà.
Tu es obligé de te supplémenter non pour faire de la calorie facile ou alors tu fais, comment est-ce que tu fais tes calories faciles du coup? Moi je, à l'époque j'avais quoi? J'avais compote. J'ai fait un peu des shakers aussi, des repas liquides, tu vois, des repas en poudre. Mais j'essayais de pas trop en faire, mais au bout d'un moment, j'étais obligé, sinon j'étais toujours en train de manger, quoi.
Alors déjà, en gros, je fais 5 repas dans la journée.
Ouais.
Ça va être un petit déjeuner quand je me lève, vers 10h, 10h30, une collation, mais qui ressemble plus à un repas qu'à une collation.
Ouais.
Vers midi, 1h, en fonction des entraînements, je mange. Et rebelote à 16h et 19h. Donc déjà, avec 5 repas, t'arrives à faire pas mal de calories.
Ouais.
Et après, le but, c'est de beaucoup s'alimenter pendant l'entraînement.
Ouais.
Et donc là, ça peut un peu correspondre à ce que tu dis, des calories faciles. Ça va être soit de la boisson d'effort.
Des gels.
Ouais. Des gels. Moi, j'aime bien la crème de marron, tu vois, parce que ouais. C'est bon et c'est bien chargé en sucre. des bars, un peu tout ce qui te passe par la main, quoi. L'important, c'est en fait d'avoir un apport glucidique.
Ouais.
À l'entraînement, c'est quasiment que ça.
Ok.
Et déjà, si tu arrives à t'alimenter pendant l'entraînement et que tu creuses pas ta dette, et ben, t'as moins besoin d'en faire des caisses après. Et
ouais.
Et ça te t'épuise beaucoup moins.
Ouais.
Donc c'est vraiment le. En gros, je sais à peu près combien je vais consommer sur 1 heure d'effort à telle intensité. En gros, j'ai un tableau pour chaque intensité. Et en fonction de la séance, je sais du coup plus ou moins combien de grammes de glucides je dois ingurgiter dans la séance, quoi.
Ok. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu vas à ce niveau-là. Donc tu fais matcher en gros ton ouais l'intensité de la séance avec un nombre de calories à avoir. C'est...
Ouais. Okay. Ouais, ah ouais. Et donc en gros, ça peut aller de 50-60 grammes par heure sur une séance facile à 80-90 grammes par heure sur une séance dure et longue, etc.
Ouais.
Et donc je sais pas si tu t'es déjà amusé sur les gels ou sur tout ce que tu manges et bois.
Tout noter.
À compter. Quand tu veux être à 80 grammes par heure, c'est pas facile. Hein.
Ah, c'est chaud. C'est chaud.
Faut manger du Haribo.
Ah, c'est clair, c'est clair. Non, et puis en plus, moi, je suis pas très sucré, tu vois. Donc tout ce qui était boisson de l'effort, gel, j'avais vraiment du mal. Donc j'allais un peu plus sur des repas liquides ou ce genre de choses, mais c'est pas assez riche en glucides quoi. Donc,
ouais c'est ça. Ouais moi pareil au début j'avais un peu de mal. Maintenant avec l'habitude et tout ça va mieux. Le problème c'est que ça a vite tendance à te pourrir les dents en fait parce que si tu passes 5 heures à t'entraîner et que pendant 5 heures tu bouffes du sucre, bah les dents elles aiment pas trop.
Ouais, c'est
du coup faut passer un peu chez le dentiste et tout. Mais ouais c'est une habitude à prendre en fait. Et après tu vois il y en a qui vont prendre que des gels, ça les dérange pas. Moi je vais prendre de la crème de marron et des bananes. Puis il y en a ils vont prendre des gâteaux Belvita. Enfin
ouais.
Puis bon de toute façon pendant trois mois tu vas bouffer un truc qui va bien passer. Puis au bout d'un moment t'en peux plus en fait.
Ouais.
Et tu changes.
Tu changes et tu,
ouais,
tu
voilà.
Changes en permanence.
C'est comme dans la boisson, c'est comme dans les bidons. Moi, j'essaie d'alterner entre de la boisson pour le vélo, ça peut être du sirop, du jus de raisin ou quoi, à l'entraînement, en natation, enfin.
Ouais.
Parce que sinon, c'est trop, quoi.
Tu te lasses, ouais.
Ouais, ouais.
Il y en a qui essayent de saler un peu, justement, leur boisson ou la bouffe, quoi, tu vois, parce que ils en avaient marre du sucre. Je suis curieux parce que tu vois, moi, justement, j'ai fait, plusieurs fois, j'ai fait pas des overdoses de sucre, mais je sentais qu'au niveau de l'estomac, ça passait plus, quoi. Mais même au niveau de la bouche, le goût
ouais,
sucré, tu vois.
Alors, honnêtement, déjà, quand il fait chaud, on essaye de beaucoup saler ce qu'on mange, mais les plats, on va dire les plats chauds, quoi. À l'entraînement, j'ai déjà entendu. Moi, les gens que je côtoie, après, on fait du court distance, donc globalement, c'est quand même des entraînements un peu moins longs, etc.
Ouais.
Faudrait demander plus à des gars qui font de l'Ironman, qui vont s'en rouler 6-7 heures.
Ouais, c'est
parce
sûr,
que j'avais des collègues qui faisaient ça et qui faisaient même des petits sandwichs, des trucs parce qu'ils en pouvaient plus, quoi. Et ça se comprend. Nous, ça va, vu que c'est 2 heures et tout, ça revient tous les jours, mais par contre, sur la sortie, ça fait pas manger 22 gels, quoi, donc ça va.
Ouais, c'est vrai que c'est plus correct, c'est plus convenable.
Ouais.
Mais hyper intéressant. En plus, c'est des trucs, tu vois, je l'ai théorisé tout ce qu'on vient de dire, tu vois. J'ai appelé ça l'entraînement invisible. Tu vois, c'est vraiment tout ce que tu fais en dehors de la piste, en dehors de ton temps d'entraînement qui fait partie de la performance. que la majorité des gens qui connaissent pas le haut niveau ou qui connaissent pas le sport de haut niveau ne connaissent pas, ne voient pas. Ça peut être effectivement le choix de ton matériel, aller chez ton kiné, t'informer sur les nouvelles bouffes parce que justement tu peux plus boire du jus de raisin et que tu dois en trouver un nouveau. Et tous ces trucs là, bah c'est vraiment ce qui c'est t'es obligé de passer par là quoi. T'es obligé de passer par là et je trouve dans le triathlon ça passe à son paroxysme parce que il y a le matériel sur trois sports, t'as la technique sur trois sports, t'as le repos sur trois sports aussi. Donc c'est décuplé à l'infini quoi.
Ouais, c'est clair. Et en fait, je pense qu'il y a une partie qui est on va dire un peu compliquée, c'est que dans ce domaine-là, enfin au sens large du terme, comme d'ailleurs dans le domaine de l'entraînement, des choix tu peux en faire mais des milliers. Et ouais. tu peux pas tout faire. Et des fois, il y a pas un choix qui est meilleur qu'un autre, mais c'est juste que
Faut
le faire et en gros faut réussir à balayer suffisamment large sans trop s'éparpiller non plus et à prendre des parties pris à exploiter, à faire les bons choix, etc. Parce qu'en fait ouais tu peux pas te dire je vais en entraînement faire ça plus ça plus ça plus ça, non, il faut choisir. Et pareil à côté tu peux pas mettre autant d'énergie dans tous les domaines et donc faut choisir, faut le faire par période, etc. Et c'est clair que, en tout cas, la marge de progression pour tout le monde, du coup, elle existe parce qu'en fait, il existe tellement de choses sur lesquelles, de curseurs que tu peux déplacer que c'est sympa, mais en même temps, ça prend de l'énergie.
Hein. Ouais, carrément, ouais. Et puis, tu sais, j'avais un, quand moi je faisais beaucoup de tri, j'avais des potes qui me disaient, t'es devenu insupportable, tu parles triathlon tout le temps, tu bouffes triathlon, tu dors triathlon et tout. Et je leur disais, mais ouais, mais en fait, déjà qu'un sport, ça te prend la tête. Là, tu les mélanges, t'en mélanges trois. Bah en fait, forcément, en fait, si tu veux performer, tu deviens obsédé, tu vois, presque par ça, quoi. Et je pense que c'est le seul moyen de réussir, quoi. On t'a déjà fait cette remarque là.
Alors oui et non, bah forcément.
Après, ça prend tellement de temps dans ta journée.
C'est
comme
ça,
tu l'as dit.
C'est ça. Ça me prend beaucoup de temps dans la journée. Et du coup, bah typiquement, ma copine, elle s'en rend compte. mais par exemple, je sais pas si tu vois là, chez moi, il y a rien qui touche au sport qui déborde, parce qu'en fait, j'ai une chambre et j'essaye de faire en sorte que quand je la ferme, je vois plus rien.
Ok.
Et parce que je pense que c'est important, même si c'est pas facile, d'arriver à déconnecter, tu vois. Et donc ouais, j'essaye de déconnecter. J'aime bien quand on parle d'autre chose que de sport, même si je suis sur le vélo, tu vois, si on arrive à avoir un autre sujet de conversation, c'est cool. Ou au moins de triathlon, tu vois, si tu parles d'autre sport mais pas de triathlon, c'est ok. Mais ouais, je pense que c'est important d'arriver à couper aussi pour prendre un petit peu de recul et tout. Ouais. Mais c'est pas facile.
Ouais, tu m'étonnes, je suis pas étonné. Et peut-être juste pour finir un petit peu sur la partie physique. Les plus grosses semaines, tu nages combien, tu roules combien, tu cours combien?
Alors, en natation, ça va être
pour la
plus grosse semaine, ça va être entre 28 et 30. En gros, quand je nage 6 fois.
Ouais. Donc, tu fais 5 bandes par jour, quoi. Ouais, grosso modo.
Ouais, grosse maille. Entre 4,5 et 5, c'est la norme, quoi.
Ok.
À vélo, c'est un peu difficile d'estimer parce qu'ici, il y a pas mal de montagnes, donc on va moins vite. Mais ça peut monter à, on va dire, aller à 16-17 heures de vélo. Donc si tu prends sur une base 30 à l'heure, ça va faire 500 bornes en gros.
Ouais, déjà c'est costaud.
et à pied, cette année, enfin ça fait 2 ans que je borne pas énormément. Mes plus grosses semaines, ça va être 80-90. Je suis déjà monté plus haut, mais en tapant sur d'autres sports.
Moi j'ai des potes qui font prépa marathon. Déjà, qui vont passer sous les 3h, les 2h50, ils sont à 90 bornes. Ouais. Donc t'as à peu près autant de charges qu'un prépa marathon
tous les jours. C'est le tarif. Après voilà, comme je te dis, moi en ce moment je cours pas énormément et le 80-90, j'y ai pas été souvent cette année, d'autant plus que j'ai été blessé. Donc des fois ça va être des semaines à 60 hein. Là je t'ai donné par sport les grosses semaines que je vais faire dans une année, mais je dis pas que c'est ma moyenne.
Ouais.
Ma moyenne, je pense ça va plutôt être je sais pas si je dois donner un truc 12-13 heures à vélo En gros, 70 à pied, 60, 70 à pied, hors blessure, on va dire.
Ouais.
Et puis, 25 en natte, tu vois.
Ouais, déjà, c'est pas mal.
on essaye d'être assez régulier quand même.
Ok. Et, comment est-ce que tu planifies un peu ta saison, justement, par rapport à ton entraînement et ton entraîneur? Est-ce que vous allez définir, toi, tu vas définir, on va dire, tes gros objectifs en termes de course, et tu vas te dire, ok, bah, mais trois grosses courses cette année, ça va être ça, ça et ça, là où t'as envie de performer. Et du coup, lui, il va, on va dire, essayer de faire des périodes un peu plus où il va mettre un peu plus de volume et ralentir un peu au moment de ces, justement, de ces échéances-là. Comment est-ce que ça s'articule un peu? Est-ce qu'il y a une grosse période où tu mets beaucoup de foncier et d'autres où tu vas un peu lever le pied? Comment ça se structure?
Déjà, oui, il y a pas mal de variations dans une année.
Ouais.
Toutes les décisions, je vais les faire un peu en discussion avec mon coach, que ce soit le choix des courses ou le choix de la préparation. Parce que bon, c'est important qu'on soit tous les deux d'avis. Puis même pour le choix des courses, lui, il peut voir des choses que moi, je vois pas forcément, avoir une vision un peu plus d'ensemble, on va dire. Ouais. Donc, je pense que c'est important qu'on soit tous les deux d'accord, même si des fois, on a du mal à tomber d'accord. Globalement, on prend la décision une fois qu'on a fini par être à peu près d'accord. Et globalement, l'hiver, je vais déjà me remettre à l'entraînement progressivement. Ça va être une base foncière sans trop d'intensité, mais sans chercher à faire des volumes débiles non plus, en partant du principe que la saison elle est longue et que je vais pas essayer de mettre toutes mes balles en novembre-décembre alors qu'il faut que je sois bon en octobre, par exemple. Ouais. Donc vraiment, c'est voilà, m'entraîner, créer une base foncière sur laquelle derrière je vais pouvoir travailler en étant sûr de pas me blesser, en étant sûr d'avoir les prérequis nécessaires. Mais on va dire que, alors il y a déjà du développement, mais on met pas tout l'hiver, quoi, à faire des intensités, à faire des bornes et tout. Et après, quand on s'approche de la saison, on va augmenter les intensités quand on s'approche des premières courses. Donc petit à petit, jusqu'à arriver à 2-3 semaines et faire des intensités courses, en fait, pour se rappeler ce qu'il en est. Mais les intensités courses, ça va pas être ma grosse dominante dans l'année. C'est vraiment histoire de me rappeler avant les courses, de revenir sur les sensations. Mais moi, je vais pas mal chercher actuellement, en tout cas, à développer les aspects plutôt endurance, seuil, tu vois, seuil 1, etc. Enfin, les trucs dont moi, j'ai le plus besoin, je pense. Et donc ça c'est là, c'est sur ces intensités-là, on va dire, des intensités moyennes sur lesquelles je vais passer le plus de temps. Et après, ben, en fait, on essaye de recaler pendant la saison quand on voit qu'on a 4-5 semaines. Ben, c'est l'occasion de replacer un bloc d'entraînement, justement. Et voilà, de jongler entre les états de forme pour enchaîner 1, 2, 3 courses. Des moments où tu te réentraînes parce que tu as besoin pour finir la saison de remettre des blocs d'entraînement. Et le tout couplé avec l'altitude, cette année en tout cas. On met ça en place. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé en altitude. Là, j'en ai fait 3 stages. Et
vous allez où? À Font-Romeu?
À Font-Romeu, ouais.
Ouais, ok.
On va à Font-Romeu et on dort dans des chambres hypoxiques en plus.
Ah ouais. Ok.
Donc voilà. Et
vas-y, continue.
Et ouais, non. Et du coup, c'est encore différent parce que il faut. Tu peux pas en faire autant, tu peux pas aller aussi vite. Donc gérer ça pour bien travailler, mais sans être cramé non plus, pour être en forme. À tel jour après la redescente ou tel jour après la redescente en fonction de ce qu'on sait qui marche pour nous. Donc ouais, ça fait pas mal de réflexion et moi je donne mes envies, mes idées, mes sensations. Après, la grosse base de construction, c'est le coach qui s'en occupe.
Ouais. Ouais, t'es obligé de déléguer ça parce que sinon tu t'y perds, quoi.
Ouais, ça, ouais, c'est un gros boulot à part entière et du coup il faut avoir une bonne relation, faire confiance, parce que si tu veux tout faire toi, tu peux pas tout gérer tout seul, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Tu regardes ta montre. Effectivement, j'arrive aux questions de la fin. Je me régale, du coup, je suis désolé.
Non,
mais
y a pas de souci,
un peu long.
Pas de souci.
J'ai mes petites questions de la fin. C'est un peu des questions un peu génériques, tu vois, façon boîte à questions de Canal+, tu vois. La première question, c'est de savoir comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Elle est pas facile, je sais.
Bonne question. C'est une question que je me pose pas mal, dans le sens où, d'autant plus quand j'ai commencé ma carrière, que j'ai du coup arrêté les études. Parce qu'en fait, en gros, à part le bac, j'ai rien. Au début, ça m'inquiétait un peu. Maintenant que j'ai une situation qui est plus confortable, on va dire, ça m'inquiète un petit peu moins. Mais je me pose régulièrement la question de savoir ce que je vais faire, ce que j'ai envie de faire. Parce qu'après avoir eu une vie comme ça, je pense que toutes les vies ne sont pas possibles, entre guillemets, pour qu'on se sente bien, quoi. Donc, je ferai certainement plus de triathlon à haut niveau parce que j'aurai 38 ans et j'ai pas envie d'en faire jusqu'à 50 ans non plus. Mais qu'est-ce que je ferai? Je sais pas.
Ok.
Et je suis curieux de savoir.
C'est quoi tes passions en dehors du triathlon?
Ça part dans tous les sens. C'est beaucoup de passions actuellement liées au sport.
Ouais.
J'adore aller en montagne. J'aimerais bien avoir le temps pour faire plus de ski de rando. J'en fais pas encore, mais j'ai envie de commencer sans avoir peur de me blesser, par exemple. Pareil, j'aimerais bien avoir le temps pour faire un peu d'alpinisme et tout. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. C'est beaucoup lié au sport, mais en fait, après ma carrière, j'aimerais bien profiter, on va dire, de mon état de forme pour me faire plaisir sur les trucs que je peux pas faire maintenant et qui me font envie depuis toujours, quoi.
Ouais.
Et ça a beaucoup à trait avec avec la nature et tout.
Ok, donc quelques glaciers, peut-être, je sais pas, une traversée d'un continent à vélo, ce genre de choses ou...
Ouais, c'est ça, ouais, quelques sommets, un peu d'altitude.
Ok.
Et puis voir des... En fait, moi, ce que j'adore dans la nature et la montagne en particulier, même si j'aime beaucoup la côte atlantique et tout aussi, c'est les paysages naturels. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, quoi.
Ouais.
Donc si je peux en profiter, ce serait cool.
Ça marche. C'est qui l'athlète que t'as rencontré et qui t'a le plus impressionné?
Bonne question. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'athlètes.
Ouais.
Et en fait, franchement, j'ai pas de nom à citer parce que chaque sport a ses spécificités et chaque sportif de haut niveau dans un sport qui n'est pas le tien, tu te dis mais comment il peut faire ça, quoi.
Ouais.
Comment un nageur d'eau libre peut nager aussi longtemps, aussi vite, etc. Comment un sprinter il est capable d'avoir des qualités pour aller aussi rapidement, pour être aussi explosif. Enfin voilà, ça peut être. Et là j'ai cité deux sports, mais tous les sports ont.
En fait, bien sûr.
Moi, je trouve que tous les sports sont impressionnants quand tu regardes la spécificité de leur sport. Ça paraît toujours un peu inhumain, quoi.
Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est clair. Est-ce que si tu pouvais, tu vois, revenir en arrière et donner un conseil au jeune d'Orient qui a 18 ans, qui du coup est pas forcément, qui a pas encore commencé les circuits mondiaux sur triathlon, et que tu pouvais te donner un conseil à ce moment-là? Qu'est-ce que tu aurais envie de te dire?
De prendre mon temps. Ouais, d'essayer de faire les choses dans l'ordre, quoi. De solutionner les problèmes à la racine plutôt que de les laisser prendre de l'ampleur et de devoir après trimer pour corriger les problèmes. Et aussi de pas arrêter de nager pendant 2-3 ans après avoir arrêté la natte, parce que c'est galère.
Ouais, mais ça va, j'imagine que ça t'a pas trop coûté quand même.
Ouais, mais je pense que je me suis pas facilité la tâche au début.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un film, une série ou un livre que t'as regardé dernièrement et que tu conseilles à tout le monde, tellement tu l'as adoré?
Sûrement, je regarde plein de séries.
Vas-y, balance-en quelques-unes que t'as bien aimé.
Alors,
récemment.
Qu'est-ce que j'ai bien aimé récemment? J'étais en train de finir Vikings.
Ok.
Franchement, c'est une série stylée. Moi, j'aime bien les mangas aussi. Je suis à fond dans One Piece en ce moment, c'est la folie.
Ok.
Et sinon, le dernier livre
Tu les lis ou tu les regardes?
Je les regarde.
Ok.
Et le dernier livre que j'ai bien aimé, là, je viens de le finir, c'était un thriller. C'est 1991.
Ok.
Franck Tillier. Et moi, je lis quasiment que des thrillers globalement. C'est okay. Les seuls que je kiffe vraiment.
T'as lu des Stephen King, du coup, j'imagine.
Pas trop. Okay. J'ai lu dans les ceux que j'avais bien aimés, j'ai lu tous les Millennium. Je les ai trouvés trop stylés. Pas mal de Harlan Coben,
okay.
des trucs dans ce genre-là. Des thrillers un peu psychologiques aussi, ça j'aime bien.
Très chaud. Moi, j'adore Harlan Coben, incroyable.
Et bah t'essaieras. Je sais pas si tu connais Lisa Gardner.
Ok.
Elle fait des trucs vraiment pas mal.
Ok, ça marche. je me le note, j'enregistre tout ça pour la suite. Trop cool. Ok, ouais. Et pourquoi les thrillers ? Enfin, qu'est-ce qui te plaît dans les... Moi, je sais que j'adore. C'est le côté enquête, stressant où t'essayes de résoudre un problème. Tu vois, qui a l'air compliqué. Tu vois, généralement, c'est ça qui me plaît, quoi. Vraiment l'enquête, le suspense.
Ouais, alors déjà il y a ça, vraiment de toujours réfléchir à essayer de trouver la solution avant qu'elle soit dévoilée. Et puis il y a aussi le fait que j'ai recommencé à lire il y a quelques années et je faisais que de regarder des séries, des trucs et j'aime trop regarder des séries, des films et tout parce qu'en plus c'est facile quand tu rentres de l'entraînement, t'es fatigué, c'est plus facile de se mettre dans son canapé et de regarder. Et en fait je voulais recommencer à lire aussi parce que c'est plus apaisant je trouve.
Bien sûr.
Et donc quand j'ai commencé il y a quelques années, j'ai commencé avec un thriller et puis j'ai essayé d'autres trucs, j'ai des autobiographies, des un peu de tout, tu vois, je suis parti un peu dans tous les sens. Et vu que j'ai tendance à avoir la flemme de m'y mettre et qu'une fois dedans, j'aime bien, je trouve que j'ai besoin d'un truc qui me tient en haleine tout le long et qui me donne envie de réouvrir pour savoir ce qui va se passer. Et c'est vrai que quand tu lis une autobiographie, par exemple, pour citer cet exemple, si c'est en plus c'est quelqu'un que tu connais, alors c'est très intéressant. Mais vu que tu connais un peu le déroulé de son histoire, ou et t'as quand même moins ce goût de reviens-y.
Ouais.
Pareil pour les trucs un peu plus historiques ou quoi que ce soit, ou même les romans, enfin même les trucs un peu fantastiques type Harry Potter, ça va pas me faire cette envie d'y retourner. Alors que ouais, vraiment les thrillers, t'as envie de savoir la solution, quoi. Et le fait que ce soit toi qui imagines le truc, c'est encore plus fort, je trouve, que voilà.
Mais c'est hyper intéressant parce que j'avais jamais formulé ça comme ça, mais c'est vrai que cette espèce de suspense qui te donne envie de revenir et de lire la fin pour savoir ce qui s'est passé, c'est vrai que j'y suis hyper hyper sensible aussi. Trop bien. Il y a l'avant-dernière question, c'est de savoir si quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, le meilleur conseil sportif qu'on a pu te donner récemment.
Bonne question.
De te mettre à la prépa mentale, peut-être.
Ouais, c'est clair que ça c'était pas dernièrement, mais du coup. Quand le prépa mental, il m'a fait travailler sur qu'est-ce que c'est la vérité au fond.
Ouais.
C'était un bon truc. Okay. Et sinon, c'est avant la course à Munich, le coach il m'a envoyé oublie pas que t'es jamais aussi fort que quand t'es relâché. Et ça, c'est un truc que j'essaye moi-même de me dire très souvent parce que je sais que c'est ce qui me manque, quoi.
Ok, trop bien, trop bien. Merci de te livrer là-dessus. La toute dernière question, c'est un peu comme un passage de flambeau olympique, mais c'est un passage de micro. Ça serait qui les deux extraterriens, un homme et une femme, que t'aimerais bien écouter justement sur ce format pour parler un peu de prépa mentale, connaître un peu plus leur routine d'entraînement et leur parcours. Quelles sont les deux personnes que tu me recommandes d'aller interviewer, une athlète et un athlète, pour respecter un peu la parité.
Ah, t'aurais pu me prévenir avant que je...
Je fais toujours un peu de surprise parce que sinon c'est trop facile.
Que j'anticipe. Alors.
Sinon, juste deux noms comme ça et puis tu pourras me dire en dehors, mais.
En vrai, j'aimerais bien entendre sur ces questions-là parce que ça m'intrigue beaucoup. Les cyclistes qui font le Tour de France. J'en ai pas rencontré des masses.
Ok.
Donc, j'en connais aucun personnellement. Mais typiquement parce que je pense à lui, Julien Alaphilippe, tu vois, mais peut-être même plutôt un gars qui joue le général,
ouais,
comme David Gaudu cette année par exemple.
Ok.
Parce qu'en fait moi ça me perturbe de savoir comment il se prépare pour être bon sur 3 semaines d'affilée. Ouais. En gros, pour moi, 3 semaines, c'est pas une course, c'est un stage. Tu vois? Et du coup, j'aimerais bien savoir ce que c'est la préparation et l'état de récupération et tout, et comment ils font, parce que, en fait, tu peux pas te permettre d'avoir de trous si tu veux gagner le général ou faire podium au général.
Ouais.
Et c'est peu commun dans le sport. La plupart des sports, ça se joue sur un jour, 2 jours maximum, quoi.
Ouais, ouais, c'est clair.
Donc, ça dans un premier temps. Et après, alors, on va choisir un autre sport que je connais pas trop.
Et une femme pour respecter la parité.
Écoute, y a un sport qu'on voit pas mal à Munich en ce moment, c'est l'escalade.
Ouais.
Et pour en avoir parlé un petit peu avec quelques grimpeurs et grimpeuses.
Parce qu'il y a l'équipe de France en plus qui est pas loin de chez toi.
Ouais, après moi je les connais un peu par l'intermédiaire de l'armée.
OK.
J'ai fait un peu des regroupements avec par exemple Manu Cornu, Julia Chanordi et tout. Et c'est un peu particulier leur truc parce que c'est un combiné et je crois que ça les perturbe un peu dans leur préparation.
Ouais, ouais.
Et ils ont tous un peu leur spécificité et leur façon d'approcher l'escalade. Et du coup, je pense que ça peut être un sujet intéressant aussi.
Bah carrément, super bonne idée. Écoute, je vais essayer d'aller voir Julia. ça pourrait être top. Non, en plus, elle a sorti un film là qui est passé à Montagne en Seine, qui est vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Et qui est hyper intéressant, et notamment on voit un peu la relation avec son père, tu vois, qui la coach. Et ce que je trouve beau dans l'escalade, c'est aussi la relation à l'échec, tu vois. C'est que tu peux être amené à grimper une voie 10 fois, 15 fois, 20 fois, échouer, et faut être obligé de s'obstiner dessus pour y arriver, ouais. Alors que c'est un peu décourageant, quoi.
Et du coup, moi je connais pas assez hein, pour en parler, mais j'ai l'impression que du coup la compétition, ça va un peu à l'encontre de l'esprit de base, justement, de travailler une voie longtemps et tout.
Ouais.
Comme quand tu regardes des reportages ou t'écoutes des podcasts sur des gars qui ont fait des grandes voies, qui ont ouvert, je sais pas si t'as vu le film sur Netflix, comment ça s'appelle?
T'as Free Solo et t'as
The Dunwall.
The Dunwall, ouais, exactement.
Ils en parlent et tu vois, genre, c'est tout l'opposé de ce qu'ils font en compétition, quoi.
Ouais, ouais.
Donc,
c'est clair.
Ça doit être assez perturbant.
C'est clair. Et deux films qu'il faut absolument voir. Quand on est fan de sport, qu'on aime l'escalade ou pas, faut le voir.
Netflix, ils sont très très bons pour faire des trucs qui donnent envie.
Mais à la base, c'est pas du tout la production Netflix.
Ouais, ouais.
Hein, tu vois,
c'est clair. Mais
ils ont eu le flair de les racheter.
Ils ont
eu
le flair c'est clair.
Mais ouais, super super cool. Bah écoute, merci pour toutes ces recos. Merci pour cette heure et demie qu'on a passée ensemble. C'était incroyable. Franchement, t'as donné plein de conseils, de petits tips. De choses qu'on voit pas, tu vois, quand on regarde les réseaux sociaux ou quand on regarde une course. Donc c'était vraiment chouette. Merci Dorian pour tout ce partage.
C'était cool de pouvoir parler de tout ça, ouais.
Je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de triathlètes qui écoutent, donc je sais que ça va beaucoup plaire, et puis j'espère que ça plaira aussi aux gens qui te suivent et qui te connaissent un peu. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Dorian pour lui dire merci. C'est lui qu'il faut remercier, c'est pas moi. Merci infiniment. Voilà, c'était super cool. J'espère qu'on se reverra bientôt.
Ouais, carrément.
Salut,
merci.
Ciao.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !